السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous sommes إن شاء الله تعالى lundi 14 جمادى الأولى 1437 de l'Hijr, soit le 22 février 2016 بإذن الله تعالى. C'est le cours numéro 52 du mal et du remède de Ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى. Et أرجو j'espère بإذن الله تعالى que ce sera le dernier cours aujourd'hui, يعني de ce livre bi'idhnillahi ta'ala. Donc le titre d'aujourd'hui, l'amour qui n'est ni réprouvable ni blâmable. Avant cela, si vous vous rappelez, on s'était arrêté à la troisième catégorie où on a cité le hadith du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que toute distraction de l'homme est vaine, sauf le tir à l'arc, le dressage de chevaux et le batifolage avec son épouse. Donc Qayyim maintenant poursuit et dit: Cet amour, ni réprouvable, ni blâmable. Et au contraire, il compte parmi les formes d'amour les plus louables. De même, l'amour pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous voulons signifier l'amour spécifique qui occupe le cœur de celui qui aime, sa réflexion et sa mention. Sinon, tout musulman porte en son cœur, un amour pour Allah et son messager, et on n'entre en islam que par cela. Donc, quand il a cité ici, yani l'amour du messager alayhi sallam, il a bien dit: je ne parle pas de l'amour général, car tout musulman porte en son cœur l'amour d'Allah et de son messager, et sans cela il ne rentre pas en islam. Mais il a dit: je parle de l'amour spécifique qui occupe quoi? C'est quoi la preuve de l'amour spécifique? Il a dit l'amour qui occupe le cœur de celui qui aime, sa réflexion et sa mention. Le prophète alayhi sallam, quand je dis je l'aime, tout musulman aime le prophète aslam. Mais de quel amour? Est-ce un amour spécifique qui me pousse à yani, le mentionner beaucoup, à dire Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Rasulullah, comme ça dans les assises, dans les privés, dans. Et est-ce que ça me pousse à essayer de le prendre comme modèle, yani, dans les choses apparentes et cachées, et comme ça? Ou là seulement je dis yani, j'aime le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, mais je crois que yani, le fait de célébrer le Maulid Nabawi, donc voilà une preuve que je l'aime. Il dit ici: les gens diffèrent dans les degrés de cet amour d'une manière que seul Allah Azza wa Jalla cerne. Ainsi, il y a une différence entre l'amour des deux amis intimes d'Allah et d'autres que. Naam. Quand on dit, nous par exemple, qu'on aime Allah, on vient de voir que tout musulman aime Allah. Sinon, il ne rentre pas en islam. S'il dit je n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim. Mais cet amour qu'on a tous dans le cœur diffère d'une personne à l'autre. La preuve: les deux amis intimes d'Allah Azza wa Jal, qui sont notre prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam et Ibrahim alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ces deux-là aussi aiment Allah subhanahu wa ta'ala, ça. Mais est-ce que nous, on aime Allah subhanahu wa ta'ala comme ces deux messagers l'aiment? C'est pas possible. Donc, l'amour qu'on porte dans le cœur d'Allah Azza wa Jal et même son messager diffère d'un croyant, son degré diffère d'un croyant à l'autre. Il dit ici, les gens diffèrent dans les degrés de cet amour d'une manière que seul Allah cerne. Ainsi, il y a une différence entre l'amour des deux amis intimes d'Allah et d'autres que. Cet amour est ce qui atténue et allège les charges des responsabilités religieuses. Rend généreux l'avare, courageux le lâche, clarifie l'esprit, dompte l'âme et bonifie la vie en vérité, et non l'amour illicite porté aux apparences. Cet amour que tu as, qu'on a dans le cœur, pour Allah Azza wa Jal et son messager, s'il est véridique, Et là, s'il est véridique, il a ce qu'on appelle yani, un résultat, si je puis dire, dans le cœur. Il a des délits dans le cœur et dans le corps aussi, dans l'apparence. Ici, ici en trace, qu'est-ce qu'il fait? Cet amour atténue et allège les charges des responsabilités religieuses. Cet amour rend généreux l'avare. Non, j'étais avare, mais maintenant, alhamdoulilah, yani, je commence à yani, dompter mon âme. Non. Il rend courageux le lâche, clarifie l'esprit, dompte l'âme. Notre âme, c'est comme un cheval sauvage. Elle ne permet à personne de la monter. C'est-à-dire, comme le cheval sauvage, ne permet à personne de le monter. Mais nous, notre but, c'est quoi? C'est de la monter. Afin de la dompter. Comme a dit Allah Ta'ala, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا. Et bienheureux, celui qui l'a purifié. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا. Il a perdu celui qui, c'est-à-dire l'a souillé, on n'a pas fait sa purification. Donc Allah Ta'ala t'a donné une âme et t'a ordonné de la dompter. De la dompter. Naam. Et bonifie la vie en vérité. Et non l'amour illicite porté aux apparences. Lorsque les secrets des cœurs seront éprouvés au jour de la rencontre, ceux de ses adeptes compteront parmi les meilleurs, comme il a été dit. Restera au fond de vos cœurs et entrailles le secret de l'amour le jour où seront éprouvés les secrets. C'est cet amour, le vrai, le véridique, qui porte, yani, qui donne son résultat. Non. C'est cet amour qui illumine le visage. Voilà ses preuves. Il illumine le visage, épanouit la poitrine et donne vie au cœur. Voilà l'amour dont on est en train de parler, le vrai. S'il n'y a pas ça, ça veut dire que ce n'est pas un vrai amour. Qu'est-ce qu'il fait? Il illumine le visage, épanouit la poitrine, élargit la poitrine et donne vie au cœur. Mon cœur qui était, subhanallah, mort, souillé, plein de ténèbres, je savais pas. Maintenant, je sens que je vis de nouveau. Je le sens battre de nouveau, subhanallah. De même, l'amour de la parole d'Allah. De même, l'amour de la parole d'Allah. Car il compte parmi les signes de l'amour d'Allah. Quand tu aimes la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ça c'est un des signes de l'amour d'Allah, que tu aimes Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pas possible que tu aimes Allah, subhanahu wa ta'ala, et que tu n'aimes pas sa parole. C'est pas possible. Tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'aimes pas le Coran. C'est pas possible. Il dit ici, si tu veux connaître ce que toi ou un autre possède comme amour d'Allah, alors il te dit si tu veux toi ou une autre personne, si vous voulez connaître c'est quoi votre degré de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit je vais te donner quelque chose. Je vais te donner un thermomètre et tu vas voir. Applique-le, tu vas voir si vraiment tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, alors, considère l'amour pour le Coran dans ton cœur. Et si ton plaisir à l'écouter est plus grand que celui d'écouter les adeptes des chants et musiques mélodieuses. Naam. Donc, voilà la balance et le thermomètre. Regarde, est-ce que tu as plus de plaisir à écouter le Coran ou bien à écouter des chansons? Où est-ce que tu trouves plus de plaisir? Quand tu écoutes le Coran ou bien quand tu écoutes de la musique? Il dit, car il est connu que celui qui aime quelqu'un, ses propos et paroles seront ce qu'il aime le plus. Non, mais il est connu que quand j'aime une personne, donc les paroles de cette personne, je les aime beaucoup. C'est comme ça, même avec les êtres humains. Quand quelqu'un aime quelqu'un, tout ce qu'il dit, il l'accepte. Subhanallah al-Azim, ça lui plaît, tout ce qu'il dit, il dit, tu es mashallah. Non, il dit, comme il a été dit, si tu prétends m'aimer, pourquoi t'es-tu écarté de mon livre? N'as-tu pas médité ce qu'il contient comme délectation dans mes propos? Il a été dit que ça a été dit. Si tu prétends m'aimer, pourquoi t'es-tu écarté de mon livre? N'as-tu pas médité ce qu'il contient comme délectation dans mes propos? Othman ibn Affan, que Allah Azza wa Jalla agréa, dit, si les cœurs, s'ils étaient purs, ils ne seraient jamais rassasiés de la parole d'Allah. Ibn al-Qayyim dit, comment celui qui aime peut-il être rassasié de la parole de celui qu'il aime et qui est le but de sa quête? Il a dit, c'est pas possible. Comment celui qui aime peut-il être rassasié, là, s'il n'en a plus envie, de quoi? De la parole de celui qu'il aime. C'est pas vrai. Non. C'est contradictoire. Et Othman, qu'est-ce qu'il a dit, radiallahu ta'ala anhu? Si les cœurs étaient purs, ils ne seraient jamais rassasiés de la parole d'Allah. Donc, si je vois que je n'aime pas lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien l'écouter, ça veut dire que mon cœur n'est pas pur. Et plus, j'éprouve de la joie et de la délectation à lire le Coran, plus ça veut dire que mon cœur est pur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, il lui a dit, récite-moi le Coran, récite et j'entends de toi. Il lui a dit, Abdullah ibn Mas'ud lui a répondu, que je te le récite alors que c'est à toi qu'il a été révélé. Comment? Je te récite le Coran alors que c'est sur toi qu'il est descendu? Il a dit, alayhi sallam, naam, j'aime l'entendre d'autres. J'aime l'entendre d'autres personnes. Alors Abdullah ibn Mas'ud commença à quoi? À réciter. Et lorsqu'il sort de Nice, du début, quand il arriva au verset où Allah Ta'ala dit, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. C'est-à-dire, dans quel état seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir, Ya Muhammad, comme témoin contre ceux-ci, contre les musulmans. Alors le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, Hasbuk. Hasbuk, cela suffit. Ibn Mas'ud leva la tête et vit les yeux du messager alayhi sallam verser des larmes. Verser des larmes. Non. Ce hadith se trouve dans Al-Bukhari 5055 et Muslim numéro 800. Donc regardez, le prophète sallallahu alayhi sallam, sur lequel lui-même est descendu le Coran, il demande à quelqu'un de lui lire. Tellement il aime écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il écoute le Coran, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Abdullah ibn Mas'ud, quand il a levé les yeux sur lui, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé des larmes qui descendaient de ses yeux, sallallahu alayhi wa sallam. Non, ce n'est pas comme nous. Ce n'est pas comme nous. On peut écouter tout le Coran sans verser une seule larme. Sans verser une seule larme. Pourquoi? Les cœurs sont durs comme des pierres. Les cœurs sont durs comme des pierres. Lorsque les compagnons se réunissaient et que parmi eux figurait Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala, il disait, oh Abu Musa, rappelle-nous notre Seigneur. Alors il récitait et eux écoutaient. Non? Il se trouve dans Fadail Qur'an, la chaîne de transmission est faible, mais d'autres voix indiquent que ce récit a un fondement. Ce récit est authentique, parce qu'il y a d'autres voix qui le fortifient, et il est très connu, et il se trouve dans presque tous les livres qui parlent des mérites du Coran. Ibn al-Qayyim dit, celui qui aime le Coran éprouve un sentiment, un goût, un plaisir, une douceur, et une joie plusieurs fois supérieure à celle qu'éprouve celui qui aime les chants sataniques. Les chants sataniques. C'est pour ça qu'on dit du Coran que quoi? C'est, yani le Coran c'est Kalam al-Rahman. Kalam al-Rahman. Et la musique c'est quoi? C'est Mizmar Shaitan. Mizmar Shaitan. Donc la flûte de Satan. Il dit, si tu vois quelqu'un, écoutez ce qu'il dit Ibn Qayyim, ce que dit Ibn Qayyim. Si tu vois quelqu'un éprouver un goût, un amour, une joie et un désir à écouter des vers de poésie, plutôt que des versets, de la musique, plutôt que le Coran, alors il en est de lui, de cette personne, comme il a été dit, on récite intégralement le Coran et tu restes immobile comme une pierre. Et on déclame un vers de poésie et tu penches comme les gens ivres. Subhanallah al-Azim. On récite intégralement le Coran, tout le Coran, et tu restes immobile comme une pierre. Et maintenant on récite un vers de poésie et tu penches comme les gens ivres. Et tu commences à bouger, et à faire bouger ta tête et à frapper des pieds et des mains et tu commences à danser peut-être. Non. Alors ça c'est avec un vers de poésie. Qu'en est-il avec de la musique maintenant et yani la guitare et les autres et le piano et je ne sais quoi. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim a dit dans un autre livre de ses livres qui s'appelle Irathatul Lahafan min Makaid au Masaid Shaitan. Il a dit quelque chose qui ressemble à cela. Il a dit, certains hommes ou certains gens, s'ils écoutent Tintina, Tintina. Il a dit Tintina, Tintina, ça veut dire quand quelqu'un commence à jouer de la guitare, Tintin, Tintin. Il a dit, yani, il commence, yani, à presque à pleurer. Non. Il a dansé, il a dit jusqu'à tomber par terre. Non. Et il a dit, si tu lui lis toute Yassine, sorti Yassine, Yassine, non, du début à la fin, il a dit, il ne ressent rien. Il a mis ça sous un vers, deux vers de poésie. Non. Il a dit, si tu lui donnes la, yani, tintina, tintina, il a dit, il tombe par terre, yani, de joie et de, mais si tu lui lis Yassine, son début à la fin, il a dit, yani, il ne ressent rien. C'est là une des plus grandes preuves de l'absence en son cœur d'amour pour Allah et sa parole. Et son attachement à l'écoute des chants de Satan. Et celui qui est trompé pense reposer sur quelque chose. Non, celui qui est trompé, il croit que, yani, ça, yani, des preuves, yani, c'est ça, maintenant ça a changé, maintenant c'est juste pour mettre un peu d'ambiance, et pour yani, un peu refouler, ou comment qu'on dit. Non, c'est un peu, yani, il commence à citer des choses qui n'ont yani, aucun argument. Défouler, à fond, défouler, non, aucun argument. Je peux pas lire qu'est-ce que c'est écrit, ça c'est très petit. C'est là le titre. Shir, Iratatullah Masayid Shaitan. Iratatullah Min Masayid Shaitan ou bien Makayid Shaitan. L'un des deux. Nam. Donc, il dit, c'est ça la preuve. Il faut voir le cœur. Comment qu'il est avec le Coran et comment qu'il est avec la musique. Et c'est à toi de juger. C'est pas la peine d'aller chez le médecin pour faire les analyses. Il va faire des analyses pour voir si tu as la foi ou tu l'as pas. C'est pas la peine. Non. Regarde, mets le Coran pendant un quart d'heure. Et mets la musique. Je vais dire, mets la musique, c'est haram. Tu n'as pas le droit d'essayer le haram. Mais si tu tombes comme ça, c'est sans le vouloir sur la musique, regarde, qu'est-ce que tu ressens. Non. L'amour d'Allah, de sa parole et de son messager, comporte bien plus que ce qu'a mentionné celui qui interroge comme enseignant et bénéfice concernant l'amour fou. En réalité, il n'est pas d'amour plus bénéfique que celui-ci, l'amour d'Allah. Et tout amour en dehors de lui est vain s'il n'y aide pas et n'y incite pas. S'il n'aide pas à l'amour d'Allah et n'y incite pas. Titre, l'amour pour les femmes. Voyez, l'amour pour les femmes. J'ai ici juste une petite remarque. Si j'étais moi le traducteur, j'aurais traduit par l'amour pour les épouses, pas pour les femmes. Pour deux raisons. La première, car en arabe, sur le livre, c'est écrit Mahabbatu Zawjat. Mahabbatu Zawjat. Et il n'a pas dit Mahabbatu Nisa. Il y a une différence entre la femme. Voilà, c'est papa. Il y a une différence entre la femme et l'épouse. Toute épouse est une femme et pas toute femme est une épouse. Ça, toute épouse est une femme et pas toute femme est une épouse. Voyez. Et ensuite, quand on dit comme ça, si on va dire le titre, l'amour pour les femmes, ensuite il va dire que c'est bien l'amour pour les femmes, etc. Donc certains, et surtout les koufars, ils vont dire, vous voyez les musulmans, hein, l'amour pour les femmes, ils cherchent les femmes. Les femmes, ça veut dire les femmes de... C'est pas les épouses, la femme de mon voisin, la femme qui travaille, je ne sais où, je ne sais où. Mais si tu dis l'amour pour les épouses, ça change tout. Pour les épouses, c'est halal, un moyen. Il dit ici, quant à l'amour pour les femmes, et moi je dis pour les épouses, aucun blâme pour qui l'y éprouve. pour qui il éprouve. Et au contraire, il fait partie de sa perfection. Et Allah Azza wa Jalla a rappelé à ses serviteurs son bienfait en cela. Lorsqu'il a dit dans le Coran, وَمِنْ آيَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Rome 21. Et parmi ces signes est qu'il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous cohabitiez avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Donc, le fait d'aimer son épouse, et le contraire aussi bien sûr, ça rentre dans un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un de ces signes, naam. Le fait, parce que parmi un de ces signes, c'est que il a créé de nous, nous les hommes, il a créé des femmes. Parce que Hawa a été créée de Adam. Naam. Et afin que vous cohabitiez, afin que normalement cohabitiez, subjonctif, avec elle. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Naam. Surtout lorsqu'il y a des enfants au milieu. Il y a en cela, il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Il a fait, Ibn al-Qayyim dit rahimahullah, il a fait de la femme, ici de l'épouse, un lieu de cohabitation pour l'homme où puisse demeurer son cœur. Naam. Quand ton cœur, naam, yani, est occupé par l'amour de ton épouse, tu n'as plus besoin, naam, d'essayer d'occuper ton cœur par autre chose. Autre chose, ça veut dire par une autre femme. Naam. Il dit ici, et il a établi entre eux un amour sincère. Qui est quoi? Qui est l'affection accompagnée de miséricorde d'Allah. Naam, salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. La fois passée, je vous ai dit, barakallahu fikoum, quand vous me voyez revenir au salon, dirigez-moi. Moi, ça fait assez longtemps que je suis au salon, mais je cherchais où se trouvait mon nom. Donc, je perds du temps à chercher où se trouve mon nom, surtout si c'est loin comme ça, je le trouve pas. Donc, si vous pouvez m'aider, bi'idnillahi ta'ala, quand vous voyez mon nom, s'affiche. Déjà, ça s'affiche. Hein? C'est écrit que Flan vient d'entrer au salon, et Flan et Foulan viennent de sortir. Quand vous voyez mon nom rentrer, dirigez-moi, jazakumullahu khairan. Donc, on parlait, vous avez dit miséricorde d'Allah. Donc vous n'avez pas entendu l'autre verset, Allahu Ta'ala alam. Donc vous n'avez pas entendu le deuxième verset que j'ai cité, Allahu Ta'ala alam. Tayyib, Allah Ta'ala dit, après avoir mentionné les femmes permises et illicites au mariage, il a dit, yuridu Allahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba alaykum ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. النساء 26-28. Allah veut vous exposer ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire vous montrer quel est le halal, quel est le haram, vous guider vers les voies de ceux qui vous ont précédé et accueillir votre repentir. Allah sait tout et il est sage. Allah veut accueillir votre repentir, mais ceux qui suivent les passions veulent que vous penchiez grandement vers l'égarement. Allah veut vous alléger des obligations, car l'homme a été créé faible. Ce qui me plaît beaucoup dans ce verset, c'est surtout le passage où Allah Ta'ala dit, Allah veut accueillir votre repentir. Mais, écoutez bien, mais ceux qui suivent les passions veulent que vous penchiez grandement vers l'égarement. Ceux qui suivent les passions ne sont jamais contents quand ils savent qu'on a fait la tauba. Naam. La plupart du temps, on devient une grande gêne pour eux. Et, mieux que cela, ils veulent, c'est Allah Ta'ala qui a cité, il a dit ils veulent que vous penchiez grandement vers l'égarement. Ils veulent que, si c'était possible, de revenir comme autrefois. De revenir un libertin et un pervers. Naam. Les gens des passions, c'est comme ça qu'ils aiment. Ils aiment que tu reviennes comme eux, comme ça d'un côté tu les gênes pas, on est tous ensemble, on est dans la même voie, donc quand on est tous, on fait tous le grand péché, donc y a pas de problème. Mais c'est quand quelqu'un, yani, qui n'est pas avec nous dans la même voie, il nous gêne. Non, si on commence, on veut faire la chose, peut-être Yanni, il va nous blâmer ou bien il va commencer à nous donner des conseils, ceci, cela, donc c'est une gêne. Donc, on voudrait bien qu'il redevienne comme nous, comme nous. Moi, Allah Ta'ala nous a, comment dirais-je, nous a prévenus, nous a dit attention, les gens de l'égarement, hein, voudraient bien que vous penchiez. Les gens des passions voudraient bien que vous vous penchiez vers l'égarement. Soufiane Thouri mentionne dans son exégèse, d'après Taous et son père, que lorsqu'il regardait les femmes, il ne pouvait patienter. Jabir radiallahu ta'ala rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit une femme, puis il alla trouver Zaynab, une de ses épouses, radiallahu ta'ala, et assouvit son désir avec elle. Ensuite, il a dit, alayhi salatu salam, la femme se présente et s'en va sous l'apparence d'un démon. Si l'un de vous voit une femme et qu'elle lui plaît, qu'il assouvisse son désir avec son épouse, car cela repoussera ce qu'il ressent. Car cela repoussera ce qu'il ressent. Le commentateur en bas a dit, Al-Hilya 4:12. Moi, je dis, Muslim, Sahih Muslim, 3000. 105. Pourquoi je laisse Sahih al-Bukhari s'il y a, et en deuxième position, je laisse Sahih Muslim s'il n'y a pas le Bukhari, et je vais al-Hilya de Abu Naïm, qui est déjà plein de choses qui ne sont pas vraies. Donc en disant al-Hilya 4:12, tome 4, page 12, rien ne prouve que ce hadith est authentique. Hilya, c'est plein de mawdu'at et daif. Mais quand je dis Sahih Muslim, 3105, là, c'est terminé. Donc, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala continue et dit, le hadith comporte, ce hadith comporte de nombreux enseignements, parmi lesquels on va citer l'orientation vers le fait de se soulager d'une chose recherchée par une autre semblable, comme d'un aliment ou d'un vêtement à la place d'un autre. Dans notre dîn, c'est connu que Allah Ta'ala, s'il te ferme une porte, c'est qu'il t'en a ouvert une autre ou 10 autres. Non. Quand il a interdit le zina, ou la lazina, qu'est-ce qu'il a permis? Il a permis le mariage. Il a permis aussi la servante, autant il y avait des captifs de guerre. Non. Donc il ferme pas quelque chose, il te laisse comme ça bloqué. S'il ferme, afouane. S'il ferme quelque chose, il donne, yani, son équivalent halal. Le prophète alayhi salam a trouvé quelqu'un en train de vivre, de vendre des dattes d'une façon qui n'est pas permise. Il donne. Que faisait ce sahabi radiallahu ta'ala? Il a des dattes qui sont pas bien. Il te donne 2 poignées de dattes. Si on dit 2 poignées, hein, il joint les 2 mains. Est-ce que ça s'appelle une poignée? Il joint les 2 mains et les remplit. Il te dit, je te donne deux. Deux, ça se dit, alhamdoulilah, 2 poignées de dattes qui sont pas vraiment bien, hein, parce qu'il y a beaucoup de sortes de dattes. Et toi, tu me donnes une seule poignée de dattes qui est mashallah. Le professeur lui a dit, oh, comme ça, il lui a dit, oh, il lui a dit, aïnou riba, c'est ça l'usure, c'est ça l'usure. Tu donnes deux et tu prends une, c'est ça l'usure. Ensuite, c'est ça le témoin du cours. Il lui a dit, quand tu veux des dattes, yani les bonnes dattes, qu'est-ce que tu fais? Tu vends tes dattes qui sont pas bonnes, tu les vends, et avec cet argent, tu achètes les dattes qui sont bonnes. Donc, toujours, quand il t'interdit une chose, il te montre la solution. Aussi, quand la personne, le sahabi a dit, ma sha Allah wa shi'ta. Il a dit au prophète sallam, ma sha Allah wa shi'ta. Le prophète sallam lui a dit, tu m'as pris comme, tu m'as pris comme, yani égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit, ma sha Allah tout seul. Ne dis pas ma sha Allah wa shi'at. Yani, qu'Allah veuille et que tu veuilles toi aussi. Non. Ma sha Allah. Ce que veut Allah ta'ala tout seul. Ou bien, ce que Allah ta'ala veuille et ensuite, summa, shi'at, que tu veuilles toi. Mais pas qu'Allah et toi veuillent. Non, ça marche pas. Je deviens égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Un muhim. Il lui a montré que cette chose ne se faisait pas, et lui a dit, voici la solution. La même chose, dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhal ladhina amanu la taqulu ra'ina وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يا الذين آمنوا وفولي كرويون ne dites pas راعينا ولكن قولوا انظرنا مي ديت بلوتو انظرنا راعينا اي انظرنا ça a le même sens. Ça veut dire, yani, occupe-toi de nous, donne-nous de l'importance, et comme ça. Mais, pourquoi je dis para'ina, je dis ondorna? Parce que les Yahouds, les Juifs, dans leur langue à eux, quand ils disent ce mot, ils le disent avec, yani, un sens péjoratif qui n'est pas bien. Donc, nous, les croyants, si on va dire comme ça, si on va dire un jeu de mots, si on va employer ce mot, même s'il a le même sens que ondorna, mais il faut pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que ça peut donner ambiguïté, les autres croient qu'on emploie le même mot dans le sens péjoratif. Un mohim, quand le témoin c'est quoi? Quand Allah Ta'ala interdit le mot ra'ina, il t'a montré le halal, il t'a dit dis ondorna. Ne dis pas ra'ina, dis ondorna. Et ça c'est plein dans la sharia. Un mohim, c'est ça la première faïda de ce hadith. Il a dit, l'orientation vers le fait de se soulager d'une chose recherchée par une autre semblable. Naam. Ici, c'est interdit de regarder une femme dans la rue. C'est interdit de la regarder. Naam. Regarder, disons plus exactement, de la regarder la deuxième fois. La première fois, c'est permis. Disons la deuxième fois. Maintenant, si tu as regardé, naam, plutôt, pour ne pas regarder, ou alors en regardant si c'est passé quelque chose, voilà la solution. Aller vers son épouse. Autre faïda, également le commandement de remédier à la séduction par une femme qui suscite le désir par le plus bénéfique des remèdes qui consiste à assouvir son désir avec son épouse. Le commandement de remédier à la séduction par une femme qui suscite le désir alors par le plus bénéfique des remèdes qui est quoi? Qui consiste à assouvir son désir avec son épouse. Ce qui diminuera le désir pour cette femme. Naam, la femme que j'ai vue dans la rue et qui a suscité en moi, yani, un désir. Maintenant, en allant vers ma femme et en assouvissant mon désir avec mon épouse. Juste après cela, la première femme qui m'avait fait des ouswes, je l'oublie. Elle sort de mon esprit et de ma tête. Je l'oublie carrément. Pourquoi? Parce que, comme on a dit dans un autre hadith, il a dit, elle a ce qu'a l'autre. Naam, ta femme a exactement ce qu'a l'autre. Car avec l'autre, avec la première, celle que tu as vue, si ça avait été plus loin, que Allah Ta'ala nous préserve, ça serait terminé par la même chose. Donc ce que a celle-là, ta femme l'a. Il dit de la même manière qu'il a incité au mariage ceux qui s'aiment. Naam, ils se sont aimés. Naam, c'est interdit de montrer l'un à l'autre. Maintenant, c'est comment la solution? Mariage. On n'a rien vu de mieux que le mariage pour ceux qui s'aiment. Sahih al-Jami'a, 5200. On n'a rien de vu que le mariage pour ceux qui s'aiment. Deux personnes qui s'aiment. Naam. Et ceux qui s'aiment, c'est quoi leur but? C'est de se rencontrer. C'est l'union, la communion. Alors, il n'y a pas donc d'autre solution que de faire la zina ou de se marier. Il n'y a pas une troisième solution. Ou bien faire la zina, ou bien se marier. Je te dis ici, on n'a jamais vu de mieux que le mariage pour ceux qui s'aiment. Ainsi, épouser celle dont on est fou amoureux, et le remède légal et universel qu'Allah Azza wa Jalla a établi. C'est celui qu'a employé Daoud, alayhi salam, et le prophète d'Allah n'a rien commis d'illicite. Il a uniquement épousé cette femme et l'a jointe à ses épouses, en raison de son amour pour elle. Son repentir était fonction de l'élévation de son rang auprès d'Allah, et il ne nous convient pas d'ajouter à cela. Ici, il dit, il a précédé, que cette histoire de Daoud a.s. n'était pas authentique. Quant au récit de Zaynab bint Jahsh, radiyallahu ta'ala anha, Zayd, Marie, ça semble ici dit, barakallahu fikoum, naam, alhamdulillah, vous m'entendez? Taïb, C'est la deuxième déconnexion. S'il y a encore une troisième, je vais carrément au paltok. Je vais terminer du paltok. Coupure à partir de quant au mariage de. Quant au mariage de. Je me rappelle pas avoir dit une phrase comme ça. Quant au récit de Zainab. Est-ce que vous avez entendu ça? Zainab, alhamdoulilah. Quant au récit de Zainab bint Jahsh, radiallahu ta'ala anha, Zayd était décidé à la répudier, mais elle n'était pas d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que Rasoul alayhi sallam avait adopté quelqu'un qui s'appelle Zayd, Zayd ibn Haritha. Et ce Zayd, radiallahu ta'ala anhu, était yani, marié avec Zainab, Zayd bint Jahsh. Naam. Et c'est le professeur lui-même qui a demandé à Zainab, qui a demandé la main de Zainab à son fils adoptif. Zayd. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il a demandé sa main, Zainab avait cru que c'était le prophète sallam qui avait demandé sa main. C'est pourquoi, après, quand elle a su que c'était pas pour lui, mais pour Zayd, son fils adoptif, elle a ressenti des choses. Non, c'est comme une chose naturelle que tout le monde et que toute femme aurait senti et ressenti. Non, le prophète lui-même est venu demander. Et je crois que c'est lui ensuite, il m'a demandé pour lui alors que c'est pour un autre. Sûrement qu'une femme, yani croyante, ressentirait beaucoup, beaucoup de chagrin. C'est sûr. Al-Muhim. Ensuite, Zayd, yani, a été affranchi. Alors qu'elle, c'est une femme, yani, de tout le temps, qui est une femme, yani, libre. Naam, hurra. Donc, même dans son mariage avec elle, elle avait aussi ce deuxième point de se sentir, yani, ou alors de sentir son mari, yani, dans un rang moindre que son rang. Chez les Arabes, ça jouait un grand rôle. Moi, je suis de Quraysh, l'autre, il est de je ne sais quelle tribu, et comme ça, ça jouait un grand rôle. Maintenant, de nos jours, ça a un peu diminué. Alors, Zayd a décidé de la répudier. Il a dit, je divorce, c'est mieux. Ça, yani, ça peut pas continuer comme ça toute la vie. Alors, il dit ici, il consultait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour s'en séparer. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui commandait de la garder. Il dit au messager d'Allah qu'il devait s'en séparer. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, dissimula qu'il l'épouserait si Zayd s'en séparait. Craignons que les gens ne disent, le messager d'Allah a épousé la femme de son fils, car il avait adopté Zayd avant la prophétie. Alors que le prophète Islam savait, au moment où Zayd venait à se plaindre et voulait la divorcer, savait que Allah subhanahu wa ta'ala allait légiférer que quoi? Que le prophète Islam va l'épouser. Pourquoi? Il va dire pourquoi. Donc il dissimulait. L'autre il lui dit, je veux la divorcer, et le prophète Islam lui dit, Taqillah et garde ton épouse. Taqillah et garde ton épouse. Le Seigneur a voulu légiférer une législation globale comportant l'intérêt de ses serviteurs. Et lorsque Zayd la répudia et qu'elle arriva au terme de sa période de retraite, il envoya le prophète envoya Zayd à elle pour la demander en mariage. Alors Zayd se présenta et tourna le dos. Et il lui fut pénible que le messager alayhi sallam la mentionne. Et il l'appela derrière la porte au Zainab, le messager d'Allah alayhi sallam te demande en mariage. Elle répondit, je ne ferai rien. Jusqu'à en recevoir l'ordre de mon Seigneur. Elle se rendit alors sur son lieu de prière et pria. Et c'est Allah azza wa jalla lui-même qui se chargea de la marier à son messager alayhi sallam et qui conclut le contrat de mariage en dessus de son trône. Et la révélation l'a mentionné dans le Coran. فَلَمَّا قَادَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَجْنَاكَهَا. Puis, quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser. Sourate Al-Ahzab, verset 37. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se leva alors immédiatement et entra chez elle. Elles sont vantées auprès des épouses du prophète sallam et disaient, ce sont vos familles qui vous ont mariés, c'est-à-dire vos tuteurs, vos pères, vos oncles, Alors que moi, c'est Allah qui m'a marié du haut des sept cieux. Rapporté par le Bukhari 47-87 et Muslim 14-28. C'est là le récit du messager d'Allah alayhi salam, avec Zainab. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu quoi? A voulu légiférer une loi. Pour montrer quoi? Pour montrer que le fils adoptif ne peut être yani, au même rang qu'un fils réel qu'on a yani, de notre épouse. C'est pas possible. Parce que autrefois, la mouchkila, c'est que le fils adoptif, même yani, il héritait son père adoptif, il héritait sa mère adoptive qu'il a adoptée. Allah Ta'ala a voulu yani, annuler cela. Et comment montrer quelle est la preuve que c'est seulement un fils adoptif et qu'il ne peut être jamais au rang d'un fils réel? La preuve, c'est que il a ordonné au messager alayhi salam d'épouser son épouse, d'épouser Zainab. Est-ce que quelqu'un peut-il épouser yani, l'épouse de son fils? C'est impossible, c'est grave. S'il l'épouse, yani, en islam, on le tue. Comme celui qui épouse la femme de son père. Donc, maintenant que le prophète alayhi salam a épousé Zainab, khlas, c'est clair pour tout le monde, et même les kuffars, et même que ce n'est pas son fils. Non, c'est seulement un fils adoptif. C'est seulement un fils adoptif. Et Zainab, radiyallahu ta'ala anha, se vantait auprès des autres épouses. Chaque épouse voudrait, du prophète aslam, voudrait se vanter quand elle est avec les autres. Chacune veut dire je ne sais quoi. Je suis la plus aimée, je suis la plus belle, je suis cela. Et Zainab, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, ce sont vos familles qui vous ont mariées. Alors que moi, c'est Allah qui m'a marié du haut des sept cieux. Toutes les autres, elles se sont mariées avec le prophète aslam, avec yani, le tuteur. Naam. Et peut-être la dot, le témoin, les témoins. Zainab, non. Ni dot, ni tuteur, ni témoin. Allah Ta'ala l'a marié du septième ciel. Vraiment, entre nous, faut dire la vérité, c'est vraiment une faveur comme pas deux. Ah, vraiment, une faveur comme pas deux. Al-Muhim, il dit, Ibn al-Qayyim dit, nul doute, qu'on a fait aimer, au prophète, alayhi sallam, les femmes. Oui, mais quelles femmes? Les femmes halal, ses épouses. Ainsi que le rapporte Anas, on m'a fait aimer de votre femme les femmes et le parfum. Et on a mis ma réjouissance dans la prière. Hadith authentique dans Sahih al-Jami' 5200. C'est ça la formulation authentique. Hein? Contrairement à certains hadiths très connus où on dit, on m'a fait aimer trois choses de votre dunya. Yani, les femmes, le parfum et la prière. Ce hadith comme ça est faible. Mais le récit authentique, on m'a fait aimer de votre monde les femmes et le parfum. Non. Et on a mis ma réjouissance dans la prière. Donc pour ceux qui disent que le prophète islam, yani, aimer la polygamie, aimer les femmes, aimer ceci, mashallah. Je parle des musulmans et je parle des frères qui disent donc moi aussi, j'aime être comme lui, polygame. Mashallah, donc toi tu es polygame et tu aimes le prophète islam, tu le prends comme modèle seulement dans ça, ça. Ah, polygamie, mashallah. Ah, prophète islam c'est un modèle. Mais ce même hadith, que dit à la fin? Que dit-il? Et on a mis ma réjouissance dans la prière. Est-ce que toi tu as la réjouissance dans la prière? Là tu as la réjouissance de courir de ville en ville pour se marier. Non. Où tu as la réjouissance? Dans la prière ou là de te marier chaque mois et de divorcer? De toute façon ça m'a rappelé une chose. Très bientôt inchallah, très bientôt, je vais vous citer un nom de quelqu'un, Zama un frère et Zama Salafi, qui fait ravage avec les sœurs, et surtout les reconvertis. Il les prend dans des hôtels, et dans je ne sais où, et il fait ce qu'il veut, et il les jette. Et je ne suis pas Bon, je suis très énervé contre lui, je vais citer son nom très prochainement. Allah al-Musta'an, na'am. Des dizaines de sœurs, il a fait ça avec elles. Il m'a même écrit. Il m'a dit, j'ai fait tawba, je fais ceci. J'ai dit, ma'alish, il a fait tawba. Maintenant, on me dit qu'il a fait ravage, ni tawba, ni rien. Mais, il faut dire la vérité, ce qui me tient encore plus au cœur, c'est pas lui. C'est Zahma les sœurs. Zahma les sœurs. Comment une sœur? Sœur, qu'une sœur avec djilbab, elle va avec lui à l'hôtel. Et moi, ça rentre pas dans ma tête. J'essaie la nuit de penser comment je trouve pas la solution. Je trouve pas si quelqu'un de vous peut m'aider. Comment une sœur, yani, va avec lui, yani, à l'hôtel. Hadi, ça rentre pas dans ma tête. Je sais pas si je suis niya ou je suis malade. Non? Donc, qu'Allah Ta'ala nous aide. Il s'attaque aux convertis, surtout les convertis. Surtout. Non, surtout les convertis, comme quoi, yani, bon, si ce sont des reconvertis, qu'elles sont à leur début, elles sont, comment dire, excusées. Elles sont excusées surtout, celles qui après cela ont fait tawba bi'idlillah subhanahu wa ta'ala. Mais lui, il n'a pas arrêté. J'ai des preuves, et je vous le dirai très prochainement, c'est qui cette personne. Le messager d'Allah, il a dit, les ennemis d'Allah, les juifs, ont jalousé cela et ont dit, ils ne pensent qu'au mariage. Allah Azza wa Jalla répondit pour son messager et le défendit en disant, Am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadlihi faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal-hikma wa ataynahum mulkan 'azima. Ou bien, lahza, une seconde. Est-ce que vous m'entendez? Je disais, naam. Donc ils disent, ils ne pensent qu'au mariage. Allah Ta'ala l'a défendu, naam, son trône. Il a dit, Am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadlihi, faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wal-hikma, wa atainahum mulkan 'azima. C'est-à-dire, sourate An-Nisa 54, ou bien, envient-ils les gens pour ce qu'Allah leur a accordé de sa grâce? Et nous avons donné à la famille d'Ibrahim le livre et la sagesse. Et nous leur avons donné un immense royaume. Envient-ils les gens pour ce qu'il leur a donné de sa grâce? Naam. L'ami intime d'Allah, Ibrahim, alayhi salam, l'imam des adeptes de la voie droite, avait pour femme Sarah, la plus belle femme du monde. Naam. Sarah, c'est la plus belle femme du monde. Subhanallah. Et il aima également Hajar, qu'il prit pour servante, et qu'on lui a donné pour servante. On a donné Hajar à Sarah comme servante. Naam. Et Ibrahim alayhi salam l'a aimé, et yani, c'est connu ça, c'est dans tous les livres authentiques. Daoud alayhi salam avait 99 épouses, et il aima cette femme, l'épousa, et compléta ainsi à 100. Souleymane, son fils, l'histoire de Daoud, on l'a cité. Souleymane, son fils, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait des rapports charnels avec 90 femmes en une seule nuit. 90 femmes en une seule nuit. Al-Bukhari, 4787. Et aussi Muslim, 1428. Et Al-Bukhari, Naam, dans le hadith de Bukhari, il a cité 100. Il a dit 100 femmes en une seule nuit. Ici, il a dit 90. Ce n'est pas la peine de s'étonner parce que yani Allah Ta'ala leur a donné une puissance, naam, qu'il n'a pas donné à d'autres. Naam. Et cela dépend aussi du corps, naam. Peut-être qu'il n'était pas, yani, il n'avait pas le même corps que nous. Je veux dire qu'ils sont être grands de corps, etc. Non. Entre parenthèses, il y a un hadith authentique qui dit que Yom al-Qiyama, l'homme, Allah Ta'ala lui donnera la puissance dans les rapports charnels de 100 hommes. C'est un hadith authentique. Yom al-Qiyamah, l'homme aura la puissance dans le paradis de 100 hommes. 100 hommes. Donc, c'est dire combien yani, qu'il sera fort, bi'idhnillahi ta'ala. On interrogea le messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam concernant la personne qu'il aimait le plus. Il répondit Aïcha. Dans cette vie, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, entre parenthèses, avait la force de, dans les rapports charnels, avait la force de 30 hommes. Dans cette vie. Naam. L'amour. Naam. Il a dit aussi alayhi sallallahu alayhi wa sallam à propos de Khadija. Il a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam à propos de Khadija, on m'a accordé son amour. On m'a accordé son amour. Al-Bukhari 38-16 et Muslim 24-35. On m'a accordé son amour. L'amour pour les femmes fait donc partie de la complétude de l'homme. L'amour pour les femmes, halal. Pour les épouses, halal. L'amour pour les femmes fait donc partie de la complétude de l'homme. Ibn Abbas a dit, le meilleur de cette communauté est celui qui a le plus de femmes. Le meilleur de cette communauté est celui qui a le plus de femmes. Al-Bukhari 5069. Bukhari 5069. J'arrête une seconde et je reviens, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Tayyib, on continue. Maintenant, il y a un passage que je vais sauter. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas authentique. Et ce n'est ni Sahaba ni le prophète al-Islam. Donc je vais le sauter. Je dis, le prophète al-Islam intercéda. Ça c'est vrai. Intercéda pour un fou d'amour afin que sa bien-aimée revienne à lui et l'épouse. Mais elle refusa. Ceci, c'est dans le récit de Mourith et Barira, radiallahu ta'ala anhumah. Car il le vit marcher derrière elle après leur séparation. Et les larmes coulaient sur ses joues. Le messager d'Allah lui dit, il a dit à Barira, veux-tu revenir avec lui? Naam, est-ce que tu voudrais pas revenir avec lui après qu'ils se sont quittés? Elle a dit, est-ce un commandement au messager d'Allah? Est-ce que tu me donnes un ordre? Naam. Il a dit, non, je ne fais qu'intercéder. Naam. Je ne fais qu'intercéder. Elle a dit, alors je n'ai aucun besoin de lui. Je n'ai aucun besoin, je ne le veux pas. Le prophète Aslam dit alors à son oncle, ô Abbas, ne t'étonnes-tu pas de l'amour de Mourith pour Barira, Naam, et de sa haine, c'est-à-dire elle, pour lui, Bukhari 5280. Nul Qiyam rahimahullah ta'ala dit, il ne lui a pas reproché son amour pour elle, même si elle était séparée de lui, car c'est une chose qu'il ne contrôlait pas. Donc, je ne sais pas combien d'années avec elle, ensuite quand on l'a affranchie, hein, et quand une femme est affranchie, ce n'est pas obligé, yani pour qu'elle vive avec un esclave. C'est pour ça qu'elle a dit, je ne veux plus de lui, et peut-être qu'elle avait aussi des machakil avec lui. Alors, il n'a pu se retenir. Et quand elle marchait dans la rue, il marchait derrière elle en pleurant. Alors qu'ils se sont déjà séparés. Alors il a vu que, yani, il n'y a pas de meilleure solution que le prophète alayhi salam intercède. Et il a fait l'intercession et elle n'a pas accepté. Elle lui a dit, est-ce que c'est un commandement? Tu m'ordonnes ou c'est Allah ta'ala qui a dit ça? Ou bien c'est juste ce que il y a quelque chose que tu veux faire en sa faveur? Il a dit non, juste une chose que je veux faire. Elle a dit donc j'ai pas besoin de lui. Je voudrais pas revenir envers lui. Naam. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam procédait à un partage égal entre ses épouses. Et il disait, oh Allah, c'est là mon partage de ce que je contrôle. Ne me blâme pas pour ce que je ne contrôle pas. C'est-à-dire l'amour d'Allah. Ce hadith n'est pas authentique. Il se trouve dans Irwa al-Ghalil 2018, même s'il est très répandu. Beaucoup de gens le citent, beaucoup de gens te disent le prophète Islam a dit Ya Allah ne me blâme pas pour ce que je contrôle pas. Naam. Il dit comme il a dit ici, comment qu'il a dit, il a dit, c'est là mon partage de ce que je contrôle, et Allah ne me blâme pas pour ce que je ne contrôle pas. C'est-à-dire l'amour. Même si j'aime une de mes épouses plus que l'autre, et Allah ne me blâme pas pour cela. Ce hadith n'est pas authentique, même s'il est très propagé et répandu. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Sourate An-Nisa, verset 129. Vous ne pourrez jamais être totalement équitable entre vos femmes, même si vous vous y appliquez. C'est-à-dire dans l'amour et les rapports charnels. Non, dans l'amour et les rapports charnels, jamais on ne peut être équitable, yani, envers les femmes pour celui qui en a deux et plus. Pour celui qui en a deux et plus. Les califes bien guidés et les hommes miséricordieux n'ont cessé d'intercéder en faveur des fous d'amour auprès des êtres chéris avec lesquels une relation leur était permise. Comme cela a été mentionné de Abu Bakr et Uthman, et aussi j'ajoute le prophète alayhi salatu salam avec entre Mourith et Barira. Naam, ensuite je saute une chose de Ali ibn Abi Talib qui n'est pas véridique, je la saute. Pour aller, lorsqu'il a dit ici, Zamakhshari rapporte que Zubayda lut, Zubayda, si j'ai une bonne mémoire, c'est l'épouse de Omar ibn Abdel Aziz, radiyallahu ta'ala anhu. Si je me trompe, Allahu alam, lut sur un mur, sur le chemin de la Mecque, elle lut, est-il parmi les serviteurs ou servantes d'Allah, un être noble qui dissipera l'affliction de celui qui a perdu la raison, possède des yeux, mais dont les commissures sont blessées, et dont les entrailles sont effrayées par le feu. Elle fit alors le nadr, elle fit le vœu pieux de s'occuper de celui qui écrivait ses vers, si elle apprenait qui il était, jusqu'à lui faire rejoindre celle qu'il aimait. Alors qu'elle était à Muzdalifa, un jour, elle entendit quelqu'un déclamer ses deux vers. Elle le fit venir et il prétendit qu'il les dit à propos de sa cousine. Dans sa famille avait fait le vœu pieux de ne pas la lui marier. Alors, Zubayda se tourna vers la famille et ne cessa de leur offrir de l'argent jusqu'à qu'il lui la marie. Et la jeune fille était encore plus follement amoureuse que lui ne l'était d'elle. Il dit ici, elle comptait cela parmi ses plus grandes bonnes actions. Il disait, la chose qui me réjouit le plus est d'avoir réuni ce jeune garçon et cette jeune fille. Voir Rabi al-Abrar 3, 121. Donc, quand quelqu'un sait que deux personnes, yani, s'aiment, naam, et que il y a une solution pour les marier, et pour intercéder chez leur famille, naam, il aura, inshallah ta'ala, des récompenses s'il fait cela, yani pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les deux, ou bien une des deux personnes, est en train de brûler. Et son cœur est en train de brûler. Et des fois, ça arrive, comme il a cité ici, l'amour fou, jusqu'à ce que la personne ne veuille plus manger, ne veuille plus boire, ne puisse plus dormir, ne puisse ceci, cela. Vraiment un grand châtiment. Naam. Je me souviens, une fois, quand j'étais au Koweït. Est-ce que vous m'entendez? Naam. Je me souviens, il y avait, ici en Algérie, peut-être même au Koweït, je suis sûr qu'il y avait même ça au Koweït, mais il y avait ça ici en Algérie aussi, une émission qui passait à la télé qui s'appelait Star Academy. Cette émission, je ne l'ai jamais vue, mais je suis sûr et archi sûr qu'ils ont dû prendre ça d'une chaîne de kofar. Je suis sûr qu'il doit y avoir ça en France ou en Allemagne ou que... Cher, c'est là, c'est planétaire. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est planétaire? Il y a ça dans toute la planète. Ça existe en France. Tu vois, je savais pas que ça existait en France. Voilà, partout dans le monde. Ah, je savais pas. Donc voilà, on vient d'apprendre quelque chose. Il y a partout dans le monde. Ce Star Academy, on t'apprend comment devenir une star. Et on fait venir des hommes et des femmes, des jeunes bien sûr. Ils restent ensemble, je ne sais combien, une semaine ou un mois, dans un hôtel. Ils sont toute la journée ensemble et ils disent n'importe quoi. Et des fois, tu me berves. Non, vraiment sans pudeur. Filmé dans un château du matin au soir, ils disent des choses qui ne sont pas bien, elle s'assoit sur ses genoux, il fume, un mohem, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Le témoin du cours, c'est quoi? Le témoin du cours, c'est pas ça. Entre parenthèses, n'accepte cela des musulmans, je ne parle pas des koufars. Pour les koufars, c'est quelque chose de normal, au contraire. Ma fille a eu la faveur d'être une star. C'est une grande faveur pour moi. Je parle des musulmans. Ne fait ça parmi les musulmans. Il n'accepte cela qu'un diyous. Un diyous. On l'appelle dans la charia diyous, diyout. Le prophète sallam a dit, le diyous ne rentrerait pas au paradis. On a dit, c'est quoi le diyout, ya Rasulallah? Il a dit, celui qui voit, yani, le mal et la perversité dans sa famille, il se tait. Diyout. Celui-là, il a dit, il rentre pas au paradis. Un mohim. Le témoin du cours. Au Koweït, une jeune fille, non, avant cela, au Koweït, une fois, parmi les ceux qu'on invite pour jouer à Star Academy, il y avait un Koweïtien qui était parmi eux. Donc, ce qui prouve que l'émission se joue aussi au Koweït. Donc, il y avait un Koweïtien qui était parmi eux. Et bien sûr, donc, les Koweïtiens, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont se mettre du côté de qui? Du côté du Koweïtien. En votant pour lui, etc., pour espérer qu'il réussisse. Al-Muhim, une jeune Koweïtienne de 14 ou 15 ans s'est éprise de ce Koweïtien. S'est éprise de ce Koweïtien d'un amour fou. D'un amour fou. Au point où elle est tombée malade. Elle ne mangeait plus, elle ne dormait plus. Et qu'Allah Ta'ala nous préserve. Alors, pour remédier à cela, qu'ont fait les gens? Non. Alors certains de sa famille à elle sont allés chez ce Koweïtien. Parce qu'à la fin, il n'a pas réussi, il n'est pas devenu ça. Il est sorti, je crois, deuxième, pas premier. Al-Muhim, quand il est revenu à l'aéroport, tous les gens du Koweït sont allés l'accueillir là-bas. Al-Muhim, ensuite, certains de la famille de la jeune miskina, de l'adolescente, sont allés chez le Koweïtien et lui ont raconté l'affaire. Ils l'ont convaincu et a accepté et ils l'ont invité chez lui, chez eux, c'est-à-dire chez la maison de la jeune fille. Naam. Et ils lui ont donné à manger ou je ne sais pas quoi, ils l'ont invité et il l'a vue et parlé avec elle, etc. C'est comme ça que elle a guéri un peu, Allahu Ta'ala alam. Allahu Ta'ala alam. Donc regardez. Yani, l'islam dit quoi? Il n'y a pas comme les amoureux, comme le mariage. Mais il est possible que, par exemple, ici, le Koweïtien n'accepte pas. Il est possible qu'il n'accepte pas, yani, se marier, surtout avec une adolescente de 15 ans. Donc, on l'a fait venir et le faire venir aussi, ça, yani, pour lui parler, etc. Ce n'est pas aussi quelque chose de charaï, mais il n'y avait que cette solution. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans un de ses livres, j'ai oublié c'est quel livre c'est, mais je l'ai lu de mes propres yeux. Mes propres yeux ont lu que Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit que si quelqu'un vraiment, ça lui arrivait une chose pareille, et que on allait lui ramener, yani la personne dont il s'était pris, pour qu'il la voie devant lui, il a dit que ce n'est pas contraire à la charia. Mais Allahu alam d'où il a tiré ça. De toute façon, ces gens-là au Koweït ont appliqué exactement ce qu'a dit Ibn al-Qayyim. Ils sont allés rapporter cette personne. Non. Que Allah Ta'ala nous préserve. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Il dit ici. Jamir ibn Murqiyah rapporte. J'ai demandé à Saïd ibn al-Musayyib, le mufti de Médine, je lui ai demandé, est-ce péché que d'éprouver un amour qui m'a assailli sans que je puisse le repousser? Il répondit, tu n'es blâmé que pour ce que tu contrôles. Par Allah, personne ne m'a jamais interrogé sur cela, et si quelqu'un l'avait fait, je n'aurais répondu que cela. Il dit ici, la chaîne de transmission n'est pas authentique. Voir Rawda, Rawdat al-Muhibbin, 227-247. J'ai pas remarqué que c'était pas authentique, sinon j'aurais pas lu. Al-Muhim. L'amour pour les femmes est de trois types. Un, le premier, un amour qui est une adoration et une obéissance, comme l'amour fou de l'homme pour son épouse et sa servante. Et cet amour est un amour bénéfique, car il est ce qui amène le plus au but pour lequel Allah Azza wa Jal a légiféré le mariage. Et c'est ce qui permet le plus au regard et au cœur de regarder ailleurs. C'est pourquoi ce fou d'amour est loué auprès d'Allah et des gens. Deuxième type, un amour qui est une aversion d'Allah Azza wa Jal et un éloignement vis-à-vis de sa miséricorde. C'est là la chose la plus néfaste de l'homme en sa religion et sa vie d'ici-bas. Et c'est là l'amour fou porté aux éphèbes. Les éphèbes, vous savez ce qu'est les éphèbes, le mourdan. C'est les jeunes. Les jeunes qui, par exemple, du paradis peut-être. Mais dans ce bas monde, lui ici, il est en train de parler de ceux du bas monde. Ce qu'on appelle mourdan, c'est les jeunes de 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui n'ont pas de barbe. Ceux-là aussi, avec eux, il y a eu beaucoup de problèmes avec beaucoup de gens, dans les mosquées, etc. Non. C'est pour ça que plusieurs fois dans les mosquées, on trouve des jeunes comme ça, de 8 ans, 10 ans, très beaux, adolescents qui va apprendre le Coran, et subhanallah l'adim, il tombe chez quelqu'un qui est mal intentionné, un pervers, et lui fait des choses de haram. Naam. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. N'est éprouvé par cela que celui qui a chuté au regard d'Allah, été refoulé à sa porte, et dont le cœur a été éloigné de lui. C'est un des plus grands obstacles coupant d'Allah Azza wa Jal. Comme l'a dit un pieux prédécesseur, il a dit, lorsque l'homme chute au regard d'Allah, il est éprouvé par l'amour des éphèbes. C'est cet amour qui a provoqué le châtiment du peuple de Lot, alayhi salam. Et ils n'ont été frappés que pour cette folie amoureuse. Allah Ta'ala a dit, la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahoun. Surat al-Hijr, verset 72. Par ta vie, ô Muhammad. Ils s'aveuglent dans leur ivresse d'aimer des garçons, des hommes. Le remède à ce mal réside dans la recherche du secours auprès de celui qui retourne les cœurs. La véracité du retour vers lui, la consécration à sa mention, la recherche de compensation par son amour et sa proximité, la réflexion sur la souffrance que suscite cet amour fou, le plaisir qu'il fait perdre, la perte de la chose la plus aimée et la survenue de la chose la plus détestable qu'elle implique. Si malgré tout, son âme se risque en cela, et ce que cela implique, alors qu'il prononce sur elle les takbir de la prière mortuaire, et qu'il sache que le malheur l'a cerné. Naam, si une personne, elle a fait tous ses efforts, et maintenant elle ne peut plus se départir de ce mal et de cet amour fou. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'elle fasse, qu'elle prononce le takbir, yani, sur son âme. Qu'il fasse la prière mortuaire sur son âme. Et qu'il se considère comme mort. Il considère son âme comme morte. Naam. Et qu'il fasse salat janaza sur lui-même. Troisième sorte d'amour, l'amour permis, incontrôlable. Naam. Comme l'amour de celui auquel on décrit une belle femme, ou de celui qui la voit involontairement, à l'improviste, et dont le cœur s'attache à elle, suscitant cet amour fou, sans que cela ne provoque aucune désobéissance. Cet amour n'est pas contrôlable et n'est pas punissable. Il est meilleur pour lui de le repousser et de s'adonner à ce qui lui est plus profitable. Il doit dissimuler cela, rester chaste et patienter sur ce malheur. Allah le récompensera pour cela et compensera sa patience pour Allah, sa chasteté, son délaissement de l'obéissance à ses passions et sa préférence donnée à la satisfaction d'Allah Azza wa Jal par ce qui est auprès de lui. Donc, quand quelqu'un aime quelqu'un et que l'autre personne ne le sait pas, c'est interdit de lui dire. Naam. Mais j'essaie quoi, si c'est possible, d'arriver à au hadith. Il n'y a pas mieux que le mariage. Même si maintenant c'est pas possible, la personne est loin ou il n'y a pas de mariage ou c'est yani, ça redonne l'impossible, donc la personne doit rester chaste. Doit rester chaste, naam, et ne doit pas être poussée à désobéir à Allah subhanahu azza wa jalla en disant donc je vais faire le haram. Il ne reste que cette solution. Maintenant, pour terminer, dernier titre du livre, les trois catégories d'amour fou, ou bien de fou d'amour. Les trois catégories de fou d'amour. Les fous d'amour forment trois catégories. Les uns s'éprennent de la beauté générale, d'autres pour la beauté restreinte, qui convoitent de l'atteindre ou non, et d'autres encore uniquement pour ceux qui convoitent d'atteindre. On va expliquer. Il existe entre ces trois catégories une différence dans la force et la faiblesse. Celui qui s'éprend de la beauté de manière générale, son cœur erre son but et il désire toute belle apparence. Donc il y a trois sortes. Il y a celui qui est épris par la beauté générale, il y a d'autres pour la beauté restreinte, et ceux qui sont pour la beauté restreinte, ça se divise en deux. Ceux qui, en même temps, yani, n'aiment la beauté restreinte que s'ils savent qu'ils vont l'atteindre. Et ceux qui aiment la beauté restreinte, même s'ils savent qu'ils ne peuvent pas l'atteindre. Maintenant, quand il parle de la beauté générale, il a dit celui qui aime comme ça, d'une façon générale, il aime toutes les belles apparences. Celui-là, il a un cœur qui erre partout, sans but. Non, il a cité les vers où le poète a dit un jour à Hazwa et un jour à Al-Aqiq. Ce sont des endroits. Donc un jour il se trouve dans telle ville parce qu'il y a là-bas une femme par exemple qui lui plaît, et un autre jour dans une autre ville. Un jour à Al-Adib, un autre endroit, et un autre jour à Al-Khulaïsa. Parfois il s'éloigne de Najd, un moment des défilés montagneux de l'Aqiq. Et d'autres fois, du palais de Taïba. Donc, miskin, celui-là, miskin, il est errant partout, à la recherche de l'assouvissement, yani, de ses passions, pas, yani, vis-à-vis des belles apparences. Son amour fou est le plus vaste, mais il n'est pas stable et change souvent. Comme on a dit, il s'entiche de celui-ci, puis tombe fou d'amour pour un autre, mais il les oublie au matin. Quant à celui qui s'éprend de la beauté restreinte, naam, il a un genre, une beauté restreinte, celui-là est plus ferme et constant dans son amour, qui est plus fort que celui du premier, car il se concentre sur un seul être. Lorsque le premier se fragmente, mais l'absence de convoitise du fait de l'atteindre l'affaiblit. Quant à celui qui s'éprend de la beauté, et il convoite d'y parvenir. Il veut y parvenir. C'est pas comme celui qu'on vient de citer maintenant. Il aime une certaine personne, mais il n'a pas dans l'intention d'y parvenir. Il a dit, quant à celui qui s'éprend de la beauté et convoite d'y parvenir, il est le plus sensé et connaisseur des fous d'amour. Et son amour est le plus fort, car la convoitise l'étend et le renforce. Donc celui-là, il a aimé. En même temps, il convoite d'arriver. Il convoite d'arriver, et en convoitant d'arriver, il convoite bien sûr ce qui est légiféré, ce qu'on appelle le mariage. Non. Enfin, dernier titre du livre, l'amour chaste. L'amour chaste. Il va parler maintenant du hadith qui dit, celui qui est fou amoureux, mais reste chaste. Celui qui est fou amoureux, mais reste chaste. Yani, il a ceci et cela comme faveur, et il va aussi citer yani le hadith qui dit que celui qui aime naam yani et devient fou amoureux, ensuite il a dit s'il meurt, il meurt en martyr. Maintenant, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala va citer toute une page complète, pour montrer que ce hadith est faible. Naam. Faible ou, comme disent certains, disent même, yani, forgé. Et va prouver Ibn al-Qayyim que le vrai, c'est que c'est une parole de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah. Naam. Ibn al-Qayyim dit, dans la page 329, il dit, quant à Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah, il n'est pas réprouvé de lui attribuer ses propos. Non. Car cette, l'authenticité de ses propos attribués à Ibn Abbas est incontestable, comme l'a cité le commentaire. Abu Muhammad ibn Hazm rapporte qu'on l'interrogea concernant celui qui meurt d'amour fou. Il a répondu, c'est une victime des passions qui n'a ni raison ni conduite. On lui mentionna également, alors qu'il se trouvait à Arafat, le cas d'un jeune devenu aussi maigre qu'un poulet. Et il demanda, qu'a-t-il? Qu'a-t-il? Pourquoi est-il aussi maigre qu'un poulet? On lui répondit qu'il était atteint d'amour fou. Et Ibn Abbas passa alors toute la journée à chercher protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre la folie amoureuse. Il en est de même pour celui qui dit, celui qui est fou amoureux, mais reste chaste, dissimule cela et meurt, yani, et martyr. Ibn al-Qayyim dit, ce qui montre clairement cela, yani que ce n'est pas vrai, et que le prophète al-Islam a dénombré, a cité les martyrs, et qu'il a mentionné celui qui meurt au djihad, celui qui meurt d'une maladie du ventre, celui qui meurt par le feu, celui qui meurt en couche, celui qui meurt noyé, celui qui est mort victime d'une pleurésie, et il n'a pas mentionné parmi eux celui qui meurt d'amour fou. Donc c'est ça la plus grande preuve. Le prophète Aslam a cité au moins 6 personnes. Il a dit ces 6 personnes, si elles meurent avec le statut de martyr. Et il n'a pas cité parmi ces personnes celui qui meurt d'amour fou. Ce qui prouve que ce n'est pas vrai. Ensuite, pour terminer, Ibn al-Qayyim dit, suffit à la victime d'amour fou, si les propos de Ibn Abbas sont authentiques, de savoir qu'il ne sera concerné que s'il patiente, reste chaste et dissimule cela pour Allah. Et ce n'est pas possible que s'il a le pouvoir d'atteindre l'être aimé et qu'il préfère l'amour d'Allah, sa crainte et sa satisfaction. Celui qui agit ainsi est le plus en droit d'entrer sous la parole d'Allah. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Quant à celui qui redoutait de comparaître devant son Seigneur et il a préservé son âme des passions, celui-là, le paradis sera sa destination finale. Faut bien savoir qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit, il a peur d'un côté, et de l'autre, il préservait son âme des passions. Et aussi la parole d'Allah, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً. Pour celui qui aura craint de comparer devant son Seigneur, il aura deux jardins. Donc tout ça, et cet amour fou, il faut quoi? La crainte d'Allah et la peur d'Allah. La crainte d'Allah et la peur d'Allah. Ibn al-Qayyim dit pour terminer, nous demandons à Allah le majestueux, Seigneur du trône immense, qu'il nous mette parmi ceux qui préfèrent son amour à ses passions et cherchent en cela sa proximité et sa satisfaction. Donc c'est une doua. Car, faites Ibn al-Qayyim, nous on dit Amin. Nous demandons à Allah, le majestueux, Seigneur du trône immense, qui nous mette parmi qui? Parmi ceux qui préfèrent son amour à ses passions. Et cherchent en cela sa proximité et sa satisfaction. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nous venons de terminer le livre de Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, un livre de 331 pages. Ceci est une faveur d'Allah et une grâce. Alhamdulillah. Yani awwalan wa akhiran. Alhamdulillah ala hadhal fadl al-azim. Qu'Allah ta'ala nous a donné d'avoir terminé ce livre. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Il y a aussi une chose, ici que je profite pour dire, je donne une nasiha. à tous ceux qui yani, apprennent aux gens des choses et aux prêcheurs et prêcheuses aussi dans tous les pays du monde de prendre de cette nasiha qui consiste à quoi? Qui consiste à si vous commencez un livre, faites tous vos efforts pour le terminer et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala cette grâce pour qu'il vous aide à le terminer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de prêcheurs, qu'est-ce qu'ils ont en ce défaut? Lequel? Ils commencent un livre, ils ne dépassent pas un mois et demi, ils l'abandonnent. Et ouvrent un nouveau livre. Et ouvrent un nouveau livre. Non. Ensuite, ils ouvrent un nouveau livre. Un mois, deux mois, ensuite ils l'abandonnent. Ceci est un grand défaut parmi beaucoup de pêcheurs. Je ne dis pas certains, beaucoup. Beaucoup de pêcheurs. Afon, pêcheurs, prêcheurs. Beaucoup de prêcheurs. Non. Et même, moi j'en connais personnellement, des talibouin, tu lui dis pourquoi tu assistes pas chez X? C'est pas loin la mosquée, pourquoi tu vas pas assister? Je te dis non. C'est quelqu'un qui, dès que tu commences un livre avec lui, ça te plaît, ensuite il change de livre. Il dit, on laisse tomber, on commence un nouveau livre. Il dit, moi j'aime pas assister chez lui à cause de cela. Donc c'est dire que c'est un grand défaut. Non. Donc voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. J'attends, inshallah ta'ala. Eh, c'est dur, non, il faut de la patience. Il faut de la patience, bi'idhnillahi ta'ala. Donc j'attends vos réponses, j'attends vos questions dans yani, 10 minutes ou un quart d'heure. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Tayyib. Une seconde. Avant de commencer, donc, inshallah ta'ala, même les questions-réponses, juste deux petites choses, inshallah ta'ala. La première, la première, c'est quand j'ai parlé tout à l'heure de Zubayda. J'ai dit que si j'ai une bonne mémoire, c'est la femme de Omar ibn Abdelaziz. Maintenant, on vient de m'envoyer que c'est la femme de Haroun al-Rashid et non Omar ibn Abdelaziz. Zubayda, qui avait épousé Haroun al-Rashid en 781, fut la femme... Attendez, vous allez lire ça. Vous allez lire ça, inshallah ta'ala. Qui avait épousé Rachid, Haroun al-Rashid, en 780, fut la femme la plus puissante de son temps. Elle était la petite-fille du khalif al-Mansour. Et une cousine de Haroun Rachid. Elle mourut en 831 pendant le règne de l'Ma'moun. Naam. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Tayyib. Et la deuxième chose, une personne m'a proposé de faire certains livres, entre autres, m'a proposé Al-Qawa'id Al-Arba. Naam. Des quatre règles. Ou l'Usul Sita. Les six fondements. Entre autres, hein, ces deux livres. Je dis, ces deux livres, je les ai faits. Ces deux livres, Qawaid al-Arba ou l'Usul Sita, les deux livres, je les ai faits. Naam. Revenez à mon site, inshallah ta'ala, vous allez trouver que j'ai fait ces deux livres, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Et maintenant, tfadl pour la première question, bi'idhnillah. Naam. Ceux qui ne savent pas que j'ai fait ces deux livres, peut-être que ces personnes étaient absentes lors de ces deux livres. Wallahu a'lam. Naam. Ou peut-être que les deux livres ne se trouvent pas sur le site. Wallahu a'lam. Tfadl, pour la première question.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khayran ya cheikh pour tout ce que vous faites pour la da'wa francophone. Et barakallahu fiqh et qu'Allah vous récompense pour avoir terminé ce livre qui est vraiment d'un grand enseignement. Donc nous allons commencer par la première question. Question d'une sœur qui demande « Ahsan Allahu ilaykum, cher, au sujet du tashahhud dans la salat. Pourquoi tutoie-t-on le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Assalamu alayka ayyuhan nabi » alors que c'est à Allah ta'ala qu'on s'adresse dans la salat. Qu'Allah nous préserve des shubuhat. Jazakallahu khayran. Tfadr al-shir. Wa barakallahu fiqh.
Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a répondu à cela en disant: il a dit, quand le prophète, alayhi salam, était vivant, on disait salam alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Il a dit quand il est mort, on a commencé à dire assalamu ala an-nabi, que le salut soit sur le prophète as-salam, et pas directement assalamu alayka, mais plutôt assalamu ala an-nabi. Et c'est l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, que quand il était vivant alayhi as-salam, on dit salamu alayka, quand il est mort on dit salamu ala an-nabi. Le Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala est de l'autre avis. Il dit que malgré mort, on dit de lui salamu alayka. Et son dalil, c'est que Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il est en train d'apprendre aux sahaba comment qu'on fait le tashahud, il a cité ça. Il a dit salamu alayka ayyuhan nabi. Il a dit donc malgré après la mort du prophète alayhi wa sallam, donc yani le Omar ibn Khattab a appris à tous les sahaba et personne yani n'a été contre. Il a dit ça devient ce qu'on appelle un ijma' soukouti. Et ceux qui peuvent répondre peuvent dire que peut-être que Omar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, il ne lui a été yani le hadith comme quoi quand il est mort on a commencé à dire salamu ala nabi de Abdullah ibn Saoud, peut-être qu'il lui est pas yani arrivé, peut-être que il l'a eu pas parmi ses connaissances. Non. Wallahu ta'ala a'lam. C'est pour ça que yani pour être au milieu, peut-être la personne yani prend du hadith de Abdullah ibn Saoud parce que maintenant il est mort, on dit salamu ala nabi, et de temps en temps si elle dit salamu alayka ayyuhan nabi, ce n'est pas grave parce que yani c'est comme ça que nous a appris le prophète alayhi salat salam. Naam. Et ensuite, quand on dit salamu alayka ayyuhan nabi, ce n'est pas une preuve que yani on s'adresse à lui maintenant après la mort. Car quand on passe devant, par exemple devant un cimetière, on dit quoi? On dit salamu attendez, comment on dit salamu ala ahl diyar min muslimin, et on commence à leur dire bon, ça rentre pas parce qu'on dit salamu ala ahl diyar. C'était pas ce que je voulais dire. C'est par exemple quand on dit une seconde. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Donc c'était ça la réponse. Ce que j'ai dit, c'était ça la réponse. Salamu alaykum ahl diyar. Non, quand on dit salamu alaykum ahl diyar min al-mu'minin al-muslimin. Voilà ce que je voulais dire. Salamu alaykum ahl diyar min al-mu'minin al-muslimin. Donc on dit pas salamu ala ahl diyar, mais on leur dit directement salamu alaykum ahl diyar min al-mu'minin al-muslimin. Alors que l'avis le plus juste, c'est que les morts n'entendent pas. Les morts n'entendent pas. Et pourtant, on leur dit salamu alaykum ahl diyar min mu'minin. Et ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse, yani, que vous soyez dans salama. Yani, qu'il se passe que vous soyez dans la salama et que il ne vous arrive rien de mal et de nuisible bi'idhnillahi ta'ala. Et ça ne veut pas dire que je me suis adressé aux morts parce que ils ne m'entendent pas bi'idhnillahi ta'ala. Mais c'est une dua qu'on leur fait bi'idhnillahi ta'ala. والله عز وجل أعلم. تفضل.
نعم جزاك الله خيرا يا شيخ. Donc nous allons passer à la deuxième question. Question d'un frère qui demande بارك الله فيكم يا شيخ pour tous ses cours. Pouvez-vous donner des conseils à quelqu'un qui est marié ou alhamdulillah mais qui a quand même du mal à préserver son regard? Qu'Allah nous préserve. Amin. تفضل يا شيخ. جزاك الله خيرا.
Le conseil que je lui donne et que je me donne à moi-même, c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas, yani, c'est comme ça, dans la nature de l'homme, qu'il penche vers les femmes. Non. Et qu'il voudrait regarder surtout celles qui sont belles. Mais, il faut qu'il mette entre ses yeux qu'il y a, yani, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui est le plus important. Et que, yani, on a été créé pour lui obéir. Donc, moi au contraire, quand c'est il y a une femme, il y a une fitna qui passe, c'est là que quoi? C'est là que je me teste. C'est là que je me teste. est-ce que l'amour pour Allah Ta'ala est plus grand chez moi ou bien l'amour de mes passions? Non. Si je peux pas me retenir et je dis je vois, même si c'est haram, ça veut dire que l'amour de mes passions dans mon cœur est plus grand que l'amour d'Allah. Je dois me détester. Je dois savoir que je ne suis rien et que je ne vaux rien. Que tout ce que je dis n'est que du bluff. La preuve, je peux même pas baisser mon regard. Une chose simple et facile, je peux pas la faire. Et donc je dois me tester et dire ça, c'est un jihad. Je suis maintenant dans un jihad. Je dois faire des efforts pour vaincre mes passions et ravir Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça, des fois c'est pour toi, des fois c'est contre toi. Des fois tu tombes, des fois tu te relèves. Et c'est ça le jihad jusqu'à ce que on meure bi'idhnillahi ta'ala. Tfadal.
Naam, jazakallahu khayran ya cheikh. Donc nous allons passer à la troisième question. Question d'un frère qui demande Ahsanallahu ilaykum ya cheikh. Barakallahu fikum à vous ainsi qu'aux admins pour votre investissement dans la transmission du ilm. Ma question est la suivante. Pouvez-vous nous citer quelques moyens concrets pour refouler au maximum les péchés, surtout les plus grands, et les moyens permettant de ne pas y penser du tout? Barakallahu fikum cheikh. Jazakallahu khayran.
Ça, c'est la suite de ce que je disais. Naam, c'est la suite de ce que je disais. Toute notre vie, c'est une jihad. Toute notre vie, c'est un jihad jusqu'à ce qu'on nous mette dans la tombe. Naam. Et, je vous cite une chose que peut-être vous avez oubliée, mais qui est très importante et qui aide beaucoup pour refouler les péchés. C'est quoi? C'est ce qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Le hadith Qudusi d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit, il n'y a pas une chose que j'aime comme les choses obligatoires. Et il n'y a pas une chose qui rapproche de moi, mon serviteur de moi, comme les choses surérogatoires. Nawafil. وَمَزَلَ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلِيَ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi en faisant les choses surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et si je l'aime, وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَسَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Et s'il m'aime, je serai son regard avec lequel il regarde, son oui avec laquelle il entend, sa main avec laquelle il prend, son pied avec lequel il marche. Le témoin, c'est quoi? Je serai son regard avec qui il voit, avec quoi il voit, et son oui avec laquelle il entend. Donc, si maintenant la personne fait beaucoup de nawafil, elle les fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle aura cette grande faveur que c'est Allah ta'ala qui commandera désormais son regard, son oui, sa main et son pied. Si Allah ta'ala, c'est lui qui maintenant commande tes yeux, donc tu ne verras que le halal. Si c'est Allah qui commande tes oreilles, tu n'entendras que le halal. Si Allah ta'ala commande ton pied, tu n'iras que dans les endroits de halal. Si Allah ta'ala commande ta main, elle ne prendra que les choses de halal. C'est pourquoi Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala a dit, en expliquant ce hadith, il a dit, c'est pourquoi si tu trouves une personne qui fait les grands péchés, et peut-être qu'on fait beaucoup, ça veut dire que c'est une personne qui ne fait pas les nafilas. C'est une personne qui se contente à, par exemple, les saintes prières. Et aux jeûnes, elle se contente au ramadan. Et aux aumônes, elle se contente de la zakat. Et au hajj, elle se contente de l'étaler une fois, ça lui suffit. C'est une personne qui ne fait pas les nawafil. Pourquoi? Car celui qui fait les nawafil, Allah Ta'ala a dit, c'est moi qui maintenant le commande. Le commande, c'est son oui, son regard, son pied et sa main. Donc, c'est à nous de voir maintenant qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Allah Ta'ala a montré les sabab et les causes. C'est-à-dire, voilà comment t'éloigner des péchés, des grands péchés. Si maintenant toi tu veux pas prendre des causes, il ne faut blâmer personne, mais il faut te blâmer et dire oui, c'est de ma faute, je veux pas prendre des causes. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et nous facilite aussi le fait de prendre des causes, car des fois les causes sont devant nous et on les ignore. Naam. Tfadal.
Amin, jazakallah, khayran el cheikh. Donc nous allons passer à la quatrième question. Une question d'un frère qui demande dans un dars sur le livre Nawaqid al-Islam, dans le sixième annulatif, c'est-à-dire tourner en dérision une chose de l'islam, un étudiant en sciences qui nous donne des cours nous a dit que si une personne se moque de la sunna, par exemple, en notre présence, on doit soit le réfuter, soit quitter la personne. Et si jamais on ne le fait pas, on sort alors également de l'islam. J'ai posé la question à un autre frère qui donne également des cours et il m'a dit que cela était vrai si on accepte ce propos dans notre cœur et que l'on l'agrée. Mais le premier frère nous a dit que même si on était en désaccord avec les propos prononcés, on sortait alors de l'islam, si on ne partait pas et que l'on ne disait rien. Je souhaite que le cheikh m'éclaircisse si cette question est sujette à divergence. Barakallahu fik pour vos efforts, ya cheikh, qu'Allah nous accorde une bonne fin. Amin. Tafadhal ya cheikh wa jazakallahu khayran.
Naam. Donc il y a ici deux propos différents, les propos du premier frère et les propos du second. Et vous voyez que ce n'est pas la même chose. Non. Je dis, Wallahu ta'ala alam, le plus vrai, c'est quoi? Le plus vrai, c'est que, s'il se passe une chose ainsi, comme c'est bien cité ici, hein, mon but, c'est quoi? C'est deux choses. De refouler ça avec le cœur. Deuxièmement, et de refouler ça avec le corps. Avec le cœur. C'est clair. Et avec le corps, comme dans le verset. وَقَدْ نَزَّلَ et aussi نُزِّلَ عَلَيْكُمْ فِي كِتَابِ أَنِّي دَسَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Donc il a dit de ne pas rester avec eux. Ne pas rester, c'est de se lever et partir. Mais maintenant, il se peut qu'il y ait une cause pour laquelle je ne me lève pas. Il se peut qu'il y ait une cause pour laquelle je ne peux pas me lever, ou qu'il y ait une contrainte, non, ou que je veux rester pour lui expliquer, lui montrer que il faut pas dire des choses pareilles, lui faire la da'wa. Lui faire la da'wa, si je sais, est plus important que de se lever et partir. C'est pour ça que le prophète Aslam a dit que celui qui yani, se mélange aux gens, non, est patiente, alors mal est mieux que celui qui ne mélange pas et ne patiente pas. Naam. Et le prophète alayhi salam a dit dans un hadith authentique, a dit إِذَا عُمِرَتِ الْخَطِئَةُ فِي الْأَرْضِ فَالشَّاهِدُ يعني الحاضر نعم الَّذِي يُنْكِرُهَا كَانَ كَالْغَائِبِ نعم et الغائب الَّذِي يُقِرُهَا كَانَ كَالشَّاهِدِ. Cheikh Al-Albani a dit authentique. Il dit maintenant si on fait le péché, le grand péché, surtout un péché pareil. Mais il parle des péchés en général des grands. Il a dit, le présent, celui qui est présent au péché, et ne l'agrée pas, ne l'accepte pas, c'est-à-dire avec son cœur, il a dit, a le statut de celui qui n'est pas présent, a le statut de l'absent. Pourquoi? Car j'ai pas accepté cette chose avec mon cœur. Et l'absent qui l'agrée, l'absent, toi tu es loin, et je te téléphone, je te dis voilà ce qu'a dit cette personne, et tu l'agrées dans ton cœur, tu deviens comme le présent, tu deviens comme celui qui était présent dans l'assise. Et celui qui est dans l'assise et ne l'accepte pas, il devient comme l'absent, comme si j'étais pas présent avec eux. Donc, ce n'est pas une obligation dans tous les cas de se lever. Mais c'est mieux de se lever et partir, pour montrer à la personne que voilà, je n'accepte pas ceci. Mais il y a des cas, comme j'ai dit maintenant, où il est possible que la personne ne se lève pas. Mais l'essentiel, elle n'a pas agréé de son cœur. Et le hadith a dit que le présent qui n'agrée pas, c'est comme l'absent bi'idhnillahi ta'ala. Voilà, le prophète alayhi sallam, maintenant, a quoi? A donné la dernière yani, sentence. Et a montré que le présent peut, yani, tout en étant présent, être un absent. Si quoi? S'il n'agrée pas de son cœur. Et de surcroît, si des fois il ne peut pas se lever. Il est dans une assise, par exemple, où il ne peut pas se lever. Il y a, yani, un empêchement. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadhal.
Jazakallahu khayran, cher, c'est très clair. Barakallahu fik. Donc nous allons passer à la cinquième question. Donc cinquième question d'un frère ou d'une sœur, on ne sait pas trop. Est-ce permis de dire à une personne qu'on l'adore? Est-ce permis de dire à une personne que l'on l'adore? Je vous rappelle que vous l'aviez déjà faite cette question. Et khayr, inshallah, tafadhali, cher.
Oui, je l'ai faite ça fait longtemps et j'avais dit que si c'était dans le sens de je t'aime beaucoup. Naam. Mais si cette phrase ou là, ce verbe, si on le prononce est compris dans le sens que je t'adore comme on adore une statue et une idole. Dans ce cas, ça rentre même dans le shirk, un culte. Mais si c'est prononcé dans le sens de j'aime beaucoup, comme quelqu'un va dire j'adore les bananes. Notre personne va dire j'adore les fraises. C'est comme ça. Dans ce cas, ça ne rentre pas bi'idhnat ala, et je crois même qu'on a cité une fois le délil. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfadzal.
Naam, mes chers, vous avez dit exactement la même chose. Donc, inshallah, nous allons passer à la sixième question. Sixième question, question d'une sœur qui dit, avant sa conversion à l'islam, elle avait fait du tort à son père, non musulman. Celui-ci gardait difficilement le contact avec elle et puis depuis sa conversion, le contact afouane est totalement rompu. Les erreurs passées et sa conversion sont apparemment les causes de cela. Que conseillez-vous à la sœur qui s'efforce de le contacter, le rencontrer, mais qui fait face à de l'indifférence, voire du rejet à ses démarches? Elle le vit très mal et souhaiterait que vous la conseilliez sur ce qu'elle pourrait faire pour espérer le pardon de son père et le maintien des liens de parenté. Barakallahu fikoum et cher wa jazakallahu khayran.
Non, si elle a fait du tort à son père, elle doit se corriger et lui demander pardon. Et ceci maintenant, soit en lui téléphonant, soit en lui envoyant une lettre, soit en lui envoyant une tierce personne, un cousin ou un oncle ou un ami à lui, là, qui irait et lui expliquerait, voilà les choses. Maintenant, si après cela, il rejette toujours et n'accepte pas, au moins elle, devant Allah subhanahu wa ta'ala, تَكُونُ قَدْ أَبْرَأَتْ ذِمَّتَهَا. Au moins devant Allah subhanahu wa ta'ala, elle a fait l'obligatoire. Et elle a fait ce qui lui est demandé d'être fait en islam. Maintenant, alhamdoulilah, comme on dit couramment, la balle n'est plus chez moi. La balle maintenant est chez lui. C'est à lui maintenant, qui, s'il ne veut pas prendre, réconcilier, c'est lui donc qui en sera questionné, pas moi. Moi, j'ai fait ce que je peux et ce que je peux faire. Et c'est pas, maintenant, je ne suis plus responsable, bi'idhnillahi ta'ala. Et que Allah subhanahu wa ta'ala aide cette sœur et lui facilite. Tfadhal.
Amin. Donc nous allons passer à la septième question, question d'un frère qui demande « J'espère que vous allez bien, Yachir. Hayyakum Allah. J'ai posé une question le jour où le sujet du cours était l'amour fou. Mais ma question n'a pas pu être posée, walhamdulillah, ala kulli hal. Yachir, je suis un jeune homme célibataire. Il y a quelques mois, je désirais me marier avec une sœur. Mais à cause de certaines circonstances, je n'ai pas pu me marier avec elle et je ne pourrai sans doute jamais le faire, wallahu a'lam. Cependant, je n'arrive pas à l'oublier. Je pense à elle tous les jours et c'est très frustrant. J'ai écouté récemment un rappel, je crois que c'est vous qui l'aviez fait, wallahu a'lam. Ce rappel disait que dans ces circonstances, le mieux à faire est de se marier rapidement pour que la future femme fasse oublier celle à laquelle on pense sans arrêt. J'ai très envie de me marier, mais je n'en ai pas la capacité financière, walhamdulillah, ala kulli hal. Pouvez-vous m'indiquer le chemin à suivre pour oublier cette femme? Et pouvez-vous me donner un conseil pour préserver ma chasteté jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal m'accorde une épouse par sa grâce? Qu'Allah Azza wa Jal accepte tous vos actes pieux et vous accorde le plus haut degré du paradis. Wa jazakallahu khayran, amin. Tfadhal al shaykh, wa jazakallahu khayran.
Naam, donc on l'a vu tout à l'heure dans le cours, et on connaît tous le hadith qui dit qu'il n'y a pas mieux, donc pour les amoureux de se marier. Il n'y a pas comme le mariage. Mais on a vu aussi que quand c'était pas possible, de quoi? Donc cacher ça dans son cœur et de rester chaste. Et dans ce cas, il faut faire des efforts, comme a dit Ibn Qayyim bin Ta'ala, pour oublier. Et la meilleure façon d'oublier, c'est de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et, yani, de renforcer son amour dans le cœur, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, son messager, de lire beaucoup le Coran, d'étudier la science, de lire la aqida, d'assister aux cours, naam, de jeûner, et comme ça, jusqu'à oublier bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand il dit qu'il a très très envie de se marier, mais n'a pas la capacité financière, naam, si maintenant, yani, il trouve qui accepte de se marier avec lui, et ça soit tel qui dépense, ce n'est pas interdit en islam. C'est-à-dire si elle est riche et c'est elle qui dépense jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fasse une solution à son mari. Même si entre parenthèses, ça peut mener à quelque chose de pas bien. Quelle est cette chose? Ça peut mener à ce que l'épouse fasse le rappel. Le rappel, ce qu'on appelle en arabe l'men. Et l'men, ça rentre dans les grands péchés. Comme dit Allah ta'ala, qawlun ma'roufun wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yitba'u ada. Il menen, celui qui fait les rappels, entre dans les grands péchés. Dans le hadith authentique, qu'il y a trois personnes que Allah ta'ala ne va pas leur parler au Qiyama, ni les regarder, ni les purifier, ils auront un châtiment douloureux. Il a dit menen. Il menen, comment ça peut venir? Ça peut venir que la femme, hein, petit à petit, un jour elle va te dire, c'est moi qui dépense pour toi, c'est moi qui t'achète ceci, c'est moi qui t'achète cela. Et elle va rentrer dans le rappel. Donc c'est pour cela que la meilleure façon serait que ce soit l'homme qui dépense pour la femme. C'est comme ça en islam. C'est l'homme qui dépense pour la femme. Et la femme, si elle le fait comme ça de temps en temps, comme a dit le prophète al-Islam à Zaynab, la femme de Abdullah ibn Mas'ud, elle lui a dit à Rasulallah, yani, je veux faire yani, l'aumône. Et mon mari est pauvre, est-ce que je peux lui faire? Il lui a dit, tu as deux récompenses, celle de la piété familiale et celle de l'aumône. Mais pas toutes les femmes ont yani, ce niveau et peuvent faire cela sans faire le rappel. Essaie de remplir ton cœur d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme j'ai dit, et fais beaucoup de doua, et prie beaucoup au dernier tiers de la nuit, quand Allah ta'ala descend et dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande une chose, je la lui donne. Si tu es sincère, Allah Azza wa Jalla te la donnera. Que Allah subhanahu wa ta'ala t'aide. Tfadhal.
Amin. Jazakallahu khairan, Cheikh. Donc nous allons passer à la huitième question, Cheikh. Donc la personne, le frère, demande qu'Allah vous préserve, Cheikh, et vous accorde le paradis ainsi que tous les admins. Amin. Peut-on s'adresser directement à une femme dont on ne connaît pas les parents pour lui déclarer notre amour dans le but de l'épouser? Donc, Cheikh, vous n'avez pas arrêté de me dire qu'on ne pouvait pas le faire, mais qu'on pouvait faire tout en sorte pour se marier avec, mais on ne pouvait pas lui déclarer. Alors, est-ce que vous voulez qu'on passe à la neuvième question, ou alors vous répondez à cette huitième question? Fadal, Cheikh.
Non, on ne peut pas. On ne peut jamais dire en islam et envoyer à quelqu'un lui dire, voilà, je t'aime, est-ce qu'on se marie? Non, il n'y a pas ça en islam. Depuis tout à l'heure, on disait qu'on devait cacher ça dans son cœur. Et que c'est haram de dire à une personne. Non. Mais, on peut dire, yani, que, yani, si tu acceptes, c'est-à-dire on envoie quelqu'un pour dire que, yani, si tu acceptes, yani, on se marie. Non. Et le tuteur en islam, c'est permis qu'il voit quelqu'un de Mashallah qui lui dise, est-ce que tu acceptes par exemple que je te marie ma fille, ou bien ma sœur, ou bien ma cousine, ou bien ma tante. Et dans le Coran, c'est inscrit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant de cet homme que beaucoup croient que c'est le prophète Shu'aib, alors que ce n'est pas lui, a dit Ibn Taymiyyah, et c'est l'avis le plus juste, ce n'est pas lui. إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. نعم. Il a dit, je veux te faire, comment on dit, te donner, si tu acceptes une de mes deux filles. À condition que tu travailles chez moi 8 ans. Il a dit à Moussa alayhi salam. Donc, ça c'est une preuve que on peut quoi? On peut, bi'idhillahi ta'ala, yani, proposer sa fille. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. يو دي سي تو تيرمين 10 صافي ريان 10 ans فإن تممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدوني إن شاء الله من الصالحين. سورة قصص. المهم يوسي يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان بروبوزي صافي يعني عمر أبو بكر الصديق حفصة يوسي عثمان بن عفان ensuite c'est le prophète صلى الله عليه وسلم qui l'a épousé. Donc on ne peut pas s'adresser directement à une femme. Comme j'ai dit, son tuteur peut s'adresser à un homme et la proposer. Son tuteur peut yani, s'adresser à un homme et la proposer. Bi-idhnillahi ta'ala. Ensuite, je voulais parler d'une chose que j'ai oubliée. Parce que la fois passée, quelqu'un m'a envoyé pendant le cours. M'a envoyé un texto que je n'avais pas bien compris. Mais j'avais dit que... Yani, il avait dit que certains yani, se parlaient, je ne sais quoi. J'avais pas très bien compris, mais j'avais dit que yani, il fallait pas se parler entre hommes et femmes, etc. Parce que ça va tomber dans la fitation. Mais après cette personne, je l'ai rencontré. Il m'a expliqué. Il m'a dit, il y a des salons dans le paltok et autres. Salons entre frères et sœurs. Où les frères et les sœurs parlent carrément MDR et je ne sais quoi. Et plus grave que cela, il me dit, il y a même des sœurs qui prennent le micro en présence des frères et qui commencent à parler, dire voilà, ceci, cela, et je ne sais quoi, de quoi ils parlent exactement. Il m'a dit, le plus pire dans cela, c'est quoi? C'est que quand j'ai voulu leur dire, ne faites pas ça, c'est haram, ils m'ont dit, nous aussi, ces gens-là, c'est vrai. Ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit, nous aussi, on était comme toi. Nous aussi, on disait que c'était pas vrai, c'était haram, etc. Ils ont dit, mais après c'est l'habitude. Non, parle une fois, prends le micro et discute n'importe quoi. Ensuite, là, ça devient l'habitude, ça devient plus haram. J'ai dit, subhanallah l'adim, comment Allah subhanahu wa ta'ala peut tourner les cœurs. Non, comment Allah ta'ala peut tourner les cœurs. Moi, je connaissais des gens qui étaient, masha'Allah, qui, quand ils sont entrer dans des salons pareils, wallah al-azim, que ils sont arrivés au point où ils mettaient la musique. Khlas, c'est Allah Ta'ala a tourné le cœur. Maintenant, il prend le quoi, il prend le micro et il te met de la musique au lieu de mettre du Coran. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah, Allah al-musta'an. Et cette personne qui a dit que nous aussi on était comme ça. On voyait que c'était haram et maintenant khlas. Je dis, naam, donc regardez comment Allah Ta'ala a tourné le cœur à cette personne au point où elle vient reconnaître que pour cette personne ce n'est plus un péché. Pour cette personne, c'est comme quelqu'un qui yani, n'a jamais bu d'alcool. Ensuite on le pousse, hein, ensuite il va boire un verre. Ensuite, à chaque fois qu'il boira, et toute sa vie, Ça ne va plus lui paraître que c'est haram. C'est quelque chose de normal. Alors qu'auparavant, si tu lui disais tu bois un verre de vin, il te dit a'oudou billah, moi je bois du vin, mais maintenant khlas. La même chose dans les salons. Certains ont fait l'anasaha, des sœurs, elles ont répondu, on n'embellit pas nos voix. Elles se trouvent des excuses pour justifier cela, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Non, donc certains dans leur... On leur a fait même des nasihas à certaines sœurs. On leur dit, ne parlez pas comme ça devant les hommes. Naam, vous dites des salafis. Naam. Mais, qaddar Allah ma sha fa'al. Comme dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, certes le croyant voit ses péchés comme s'il était assis sous une montagne, craignant qu'elle ne tombe sur lui. Et certes le pervers voit ses péchés comme une mouche qui passe vers son nez, et alors il fait comme cela. C'est-à-dire, il fait un geste de la main pour la repousser. C'est un hadith que Cheikh Al-Albani a dit, mawquf authentique. Naam. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Qu'Allah ta'ala nous préserve. Tous les péchés, les grands péchés, ont commencé comme ça. Tous les grands péchés. Comment qu'ils ont commencé? Comme ça. je parle avec quelqu'un sur le Coran et la Sunna. Et du Coran et de la Sunna, petit à petit, ça se termine dans un hôtel que Allah Ta'ala nous préserve. C'est comme ça. Tout à l'heure, quand on parlait du pervers qui prenait les sœurs à l'hôtel, ce pervers a un site qui parle de la Sunna et de Salafiyya et de Cheikh Al-Albani et de Cheikh Taymiyya. C'est en rentrant dans le site, quand les sœurs rentrent, qu'ils les chassent. Le chasse, il y a un verbe chasser. Comme on chasse une perdrix. Non. Donc, qu'est-ce qu'il va leur dire premier jour? Est-ce qu'il va leur dire, on va à l'hôtel? Il va leur dire, Allah Ta'ala a dit, et son prophète a dit. Et Abu Huraira a dit, et Ibn al-Qayyim a dit. Ensuite, petit à petit, jusqu'à les emmener à l'hôtel, Oulayyadu billah. Non. Il n'y a pas plus grave chez Allah Yom al-Qiyamah que d'avoir pris son din, avoir pris le din d'Allah comme appât. Non. Donc, une seconde. Hein. Je disais, il n'y a pas plus grave que de prendre le din d'Allah Ta'ala comme appât. Appât, yani dans l'hameçon, je mets comme appât quoi? Allah Ta'ala a dit et son messager a dit. Alors que dans ma tête, j'ai quoi? J'ai non, tout ça pour terminer yani, dans la zina. Je dis, Allah a dit, son messager a dit, pour terminer dans la zina. Que Allah Ta'ala nous préserve. Il y a un hadith authentique, celui que j'ai cité tout à l'heure. Que Allah a dit qu'il y a trois personnes qui ne vont pas les regarder Yom al-Qiyamah, pas les purifier et pas leur parler. Ils auront un châtiment elim. Il a dit, celui qui ferait le rappel, il a dit, celui qui vend en jurant par Allah, alors que c'est pas vrai. Donc, il jure, il te vend, yani, toi pourquoi tu achètes? Parce qu'il t'a juré par Allah. Donc, il a pris Allah, subhanahu wa ta'ala, que Allah ta'ala nous préserve, pour appât. C'est pour ça qu'il a dit que Yom al-Qiyamah, il va pas lui parler, bi'idhnillahi ta'ala. Non. Le hadith que tu as cité, Habib, c'est pas celui-là, parce que dans les trois que tu cites, il n'y a pas celui qui prend le deal comme Appa. Non, ça c'est un autre, ma'alish. Mais laisse ce hadith de côté, on en aura besoin, inshallah ta'ala. Tfadval pour une autre question.
Amen, Cheikh Allah Musta'in. Donc on va passer à la prochaine question. Qui est la question numéro 8. Donc, question d'un frère qui demande qu'Allah vous préserve et chère et vous accorde le paradis ainsi que tous les admins. Amin. Peut-on s'adresser directement à une femme? Afwan et chère, je suis en train de répéter la même question que j'ai faite tout à l'heure, la 8. C'est plutôt la 9. Afwan, donc, question numéro 9. Qu'Allah Azzawajal vous affirme, monsieur chère, dans la voie de la rectitude et qu'il fasse que vous soyez une des causes de la guidée d'un très grand nombre de personnes. Question sur la Aqida. Il y a quelques jours, un frère m'a parlé de tarout. Il m'a cité les cinq plus grandes sortes de tarout, citées par Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Parmi ces cinq sortes de tarout, il y a le gouverneur transgresseur, qui change les lois d'Allah Azzawajal, et celui qui gouverne par une autre loi que celle d'Allah Azzawajal a révélée. Après m'avoir cité ces deux sortes de tarout, il m'a dit que les trois dirigeants maghrébins, bah oui, ça c'est sûr, et ça va en venir ici. Le roi du Maroc, le président Abdelaziz Bouteflika, Allah yashfih, et le président tunisien sont des taroutes. Il m'a mis des choubouettes. Je sais qu'ils ne sont pas des taroutes, mais je n'ai pas assez de science pour répondre à cela. Pouvez-vous ôter mes doutes en me donnant l'argumentation qui prouve que les dirigeants maghrébins sont des musulmans et non pas des tawarites? Barakallahu fikoum, mes chers. Wa jazakallahu khayran. Tfadal, les chers.
Tayyib, vous m'entendez? Là. Donc, premièrement, je donne conseil. Et avant cela, puisque j'oublie vite, pour ne pas oublier, je voulais vous poser une question. Pendant que je suis en train de répondre aux deux questions qui restent, si c'est possible, il y a quelqu'un qui peut me dire où est-ce qu'on s'est arrêté exactement quand on faisait les trois fondements. Les trois fondements. Où est-ce qu'on s'est arrêté exactement? Ou en d'autres termes. Où exactement on doit continuer. Voilà, fais une recherche. Non, même si, Habib, si c'est pas aujourd'hui, bah, allez, tu m'envoies demain ou là, sur mon mail, pour me dire, c'est pas exactement où on s'est arrêté, mais mieux, où est-ce qu'on doit commencer. On doit commencer par expliquer quel paragraphe. Ce serait mieux, bi'idhillahi ta'ala. Tayyib, on me dit maintenant, est-ce qu'on peut le reprendre depuis le début? Je ne crois pas, parce que on a fait une grande partie. On a fait, yani, une assez grande partie, wallahu ta'ala alam. Tayyib. Donc, je reviens à la question du frère posé ici. Je lui dis, premièrement, si tu veux préserver ta religion et préserver ton iman et préserver surtout ton minhaj et ne pas tomber dans la perdition, je te conseille de ne plus jamais te rasseoir avec ce frère qui t'a parlé de ça. Ça, c'est un premier conseil. Je te conseille de ne plus jamais te rasseoir avec ce frère, hein, qui t'a parlé de ça, bi'idhna subhanahu wa ta'ala. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé dans le Coran, il a dit que ceux qui ne jugent pas avec les lois d'Allah ta'ala, il a dit, ce sont ceux-là les kuffars. Il a dit, ce sont ceux-là les zalimoun. Il a dit, ce sont ceux-là les fasiroun. Il a dit les injustes. Et il a dit aussi les pervers. Non. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit une fois ce sont les kuffars, une fois les pervers, une fois les injustes? Vous savez que dans le Coran, il n'y a pas de répétition. Car le takfiri, si tu vas lui dire comme ça, il va te dire injuste et fasir. Pervers, ça veut dire aussi kafir. Tu lui dis non, si ça voulait dire kafir. Donc il y a répétition dans le Coran. Le Coran, c'est un livre qui, avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala, entre autres, a lancé un défi à qui? Aux Arabes, les éloquents, qui sont connus par l'éloquence dans la parole. Non. Donc il ne va pas faire dans son livre des choses qui sont contraires à l'éloquence. La répétition est contraire à l'éloquence. Donc ça, c'est pour te dire que des fois, le gouverneur, quand il juge pas avec les lois d'Allah, des fois il est kafir, et des fois il est pervers, et des fois il est injuste. D'après, pourquoi il n'a pas jugé avec les lois d'Allah. Ensuite, ici, un peu plus haut, quand il a dit qu'ils ont changé les lois d'Allah, c'est pas vrai. Pour changer les lois d'Allah, il faut que tu viennes commander dans un pays, et avant toi, il y avait les lois d'Allah. Ensuite, tu les as enlevées, et tu as mis les lois des kuffars et les lois de Napoléon. Alors, ni Bouteflika, ni celui de la Tunisie, ni celui du Maroc, avant qu'ils ne viennent eux au pouvoir, il n'y avait la charia avant eux. Jamais. Jamais il y avait la charia avant eux. Ils sont venus, ils l'ont enlevé et ont mis, d'autres lois à leur place. Mais ça s'applique par exemple à qui? Ça s'applique par exemple au roi, ou plutôt au gouverneur de la Turquie. Naam. Atatürk. Kemal Atatürk. Vous connaissez? Celui-là, quand il est venu au pouvoir, il a trouvé la charia. Il l'a enlevé et a mis ses lois à sa place. Celui-là, il est kafir pour avoir changé les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là n'ont pas changé. Ils sont venus, ils ont trouvé la démocratie et les lois des autres. Naam. Donc, je dis à cette personne, si tu veux bien comprendre le minhaj de Al-Sunnah ou Al-Jama'a dans le fait de gouverner, lis ce que disent les savants, les grands savants, dans le verset, ceux qui ne jugent pas avec les lois d'Allah, ceux-là sont des kuffars. Que veut dire ici kuffar? Et qu'a dit Abdullah ibn Abbas dans l'explication de ce sont des kuffars? Car il a bien dit, ce n'est pas le coffre que vous croyez, mais c'est le petit coffre, celui qui ne fait pas sortir d'islam. Le Cheikh Al-Albani a dit authentique, ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas est authentique de lui. La chaîne de transmission est authentique. Pas seulement lui, Qatada, beaucoup d'autres ont dit ça, des selfs. Alors, lis ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Ibn Baz, et tous les grands savants sur l'explication de ce verset. Et tu auras, Inch'Allah Ta'ala, le cœur apaisé. Que, quand on ne juge pas avec les lois d'Allah, pas dans tous les cas on sort de l'islam. Mais on sort de l'islam dans trois cas. Si on dit que la loi d'autres qu'Allah est meilleure que la loi d'Allah. Ou bien, deuxième cas, si on dit que la loi d'autres qu'Allah est égale à la loi d'Allah. La même chose. On sort de l'islam. Ou si on dit, troisième cas, on est libre. On juge avec n'importe quelle loi, on est libre. Dans ce cas aussi, on est sorti de l'islam. Mais si on juge avec autre loi que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec une autre loi, en reconnaissant le statut de la loi d'Allah qu'il est obligé de juger avec cette loi, mais que moi, je n'ai pas jugé pour une autre raison. Soit pour les patients, soit pour ceci, soit pour cela. Dans ce cas, je ne suis pas kafir. Comme a dit Abdullah ibn Abbas et beaucoup de salafs avant lui. Pourquoi? Car, voilà la règle, apprends la règle, toute obligation que Allah Ta'ala fait descendre dans son Coran, par rapport à nous, le Mukallafoun, on a deux obligations envers elle. La première, de la reconnaître dans le cœur. Et la deuxième, de la mettre en obligation. Afin de la mettre en pratique. Regarde, je te donne un exemple. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, par exemple, l'obligation de s'éloigner de l'alcool. C'est un exemple. L'interdiction de boire de l'alcool. Il faut quoi que je mette dans le cœur? 1. Que c'est interdit de boire de l'alcool. 2. De ne pas en boire. Maintenant, si maintenant je mets la première obligation, je dis, khlas, dans mon cœur, c'est interdit. L'alcool est interdit. Ou est interdit. Et que maintenant je vais en boire. Est-ce que je sors de l'islam? Je ne sors pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un grand péché, c'est tout. Et maintenant, si dans mon cœur je dis non, l'alcool c'est halal, c'est permis. Même si je ne vais pas en boire, je suis kafir. Je sors de l'islam. Pourtant quoi? Pourtant je n'en bois pas. Oui, mais ça n'a pas suffi. Tu n'as fait qu'une seule obligation. La deuxième, la plus importante, c'est celle du cœur. De reconnaître que l'alcool est interdit. Et toi, tu ne l'as pas reconnu. Donc, tu es kafir même si tu n'en bois pas. C'est comme ça ici. Si tu reconnais qu'il faut juger avec les lois d'Allah, naam. Ensuite, même si tu l'as pas fait, tu n'es pas kafir. Pourquoi? Parce qu'à la rigueur, tu n'as pas quoi? Tu n'as pas, naam, yani, tu as reconnu dans le cœur et c'est le plus essentiel. Même si maintenant tu l'as pas fait, yani, tu n'es pas sorti d'islam car tu as fait une des obligations la plus importante, l'obligation du cœur de reconnaître يعني le statut d'Allah Azza wa Jal en cette chose. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal pour la dernière question.
Jazakallahu khairan ya Sheikh wa barakallahu fik. Donc dernière question, question d'une sœur qui demande qu'Allah vous préserve ya Sheikh, sachez que vos courses nous sont indispensables et sont d'une très grande ni'ma. Allahu madarik. Voici ma question ya Sheikh, je suis actuellement enceinte, walillahil hamd. Je me suis rendu dans un hôpital afin d'effectuer mon suivi de grossesse, mais une fois sur place, beaucoup de choses m'ont perturbé. Aucune hygiène, les médecins ne se lavent pas les mains entre chaque consultation. Je souhaiterais savoir si je peux être suivi par un gynécologue homme dans une clinique spécialisée pour très peu de temps, car je serai bientôt suivi par une sage-femme. Ce gynécologue est très réputé. À la première consultation, il a constaté un problème au niveau de la grossesse. Alhamdulillah, mon mari est présent à chaque échographie. Le gynécologue n'effectue que les échographies, donc il ne voit pas les parties intimes. Mais est-il permis d'être suivi par ce gynécologue en présence de mon époux? J'ai peur que mon bébé et moi-même soyons contaminés par une maladie à l'hôpital et beaucoup me l'ont déconseillé, sachant que j'ai une grossesse qui est un peu à risque. Puis-je délaisser l'hôpital insalubre pour la clinique? Allah Azza wa Jalla vous récompense en bien et cher et vous préserve de tout mal. Tfadal ya Sheikh, wa jazakallahu khairan. Donc, cher, il y a Habib qui nous a mis les dernières paroles des cours, Inch'Allah. Donc, je vous laisse le mic.
Oui, mais Mahmoud, tu viens de dire, Mahmoud, tu viens de dire, Habib nous a mis les dernières paroles. Bon, j'ai bien dit que il faut pas qu'il mette les dernières paroles, mais il faut qu'il mette les paroles nouvelles qu'on va étudier. Donc, Mahmoud, est-ce que tu as dit ça de ta tête? Ou bien c'est lui qui t'a dit que ce sont les dernières paroles. Très important, hein, Mahmoud. Ah non, c'est peut-être les suivants. Voilà. Donc on attend de Habib pour qu'il nous dise est-ce que ce sont les nouvelles ou les dernières. Les nouvelles qu'on doit étudier ou bien les dernières. Il y a une grande différence, c'est le mohème. Le temps qu'il nous réponde, je me suis arrêté au cours des 7, et après je suis rentré à l'hôpital. Maïchvik. Donc, on va voir avec les autres. On va voir avec les autres. Je crois que il y a d'autres cours. Par rapport à la sœur du gynécologue, etc. Si c'est pour des raisons de santé, insalubrité, c'est qu'on a peur et que on risque, n'am. Donc il y a ce qu'on appelle haja et la femme pour elle haja, n'am. Yani peut avoir recours à un homme, comme a dit Cheikh Ibn Rahim, il a dit surtout s'il est spécialiste. C'est-à-dire si maintenant je suis une sœur et j'ai dans ma ville deux médecins, une femme et un homme. Mais donc je dois d'abord commencer par la femme. Je n'ai pas le droit d'aller me soigner chez un homme. Mais la maladie que j'ai, par exemple, je vois que l'homme est spécialiste et elle contredit ce qu'elle dit, elle. Donc, je dois aller vers l'homme parce qu'il a plus de science qu'elle. Non, mais il a plus de science. Mais je dois prendre, ce qu'il faut, c'est-à-dire ne pas être seul, pas être seul avec lui, être avec mahram. Et comme ça, pourquoi? Parce que dans ce cas, l'homme, connaît mieux que la femme. Et si je me soigne chez cette femme, par exemple, il se peut qu'il m'arrive des choses. Surtout qu'ils se sont contredits. Lui, il a dit, ça, cette chose ne se fait pas, et elle dit, ça se fait, par exemple. Donc, c'est son avis que je dois prendre. Parce qu'Allah Ta'ala a dit, فَسْأَلُوا الْذِكْرِمْ كُتُمْ لَتَعْلَمُونَ. Il a dit aussi, فَسْأَلْبِهِ خَبِيرًا. Non. Un mohème. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour la réponse à la sœur, à condition que il ne fasse que les échographies et qu'en même temps, elle soit en présence de son mari, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Là, on a terminé pour aujourd'hui. Tfadlal Mahmoud pour le micro.
Donc, cher, on a reçu un message par rapport au cours et il y a une personne qui demande si on pouvait faire une sorte de contrôle et juste après ces contrôles, faire des auto-corrections par rapport au cours que vous faites. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire faire des contrôles et juste après faire des autocorrections, c'est-à-dire chacun se corrige avec les réponses que vous donnez pour voir à peu près où, ce qu'on a acquis ou pas. Tfadal Cheikh, et dites ce que vous en pensez.
Je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire faire des contrôles et la suite. Tfadal.
Non, mais cher, donc en fait, c'est-à-dire des examens. On fait des examens par rapport au cours que vous avez donné. Et ensuite, vous donnez les résultats et chacun se corrige soi-même. Voilà, tout simplement, vous faites un examen avec des questions, je sais pas moi, 10 questions, et après, un laps de temps, on fait la correction et chacun se corrige soi-même chez lui. Voilà, les chers, sans aller cher.
C'est-à-dire pour ce qu'on va faire ou là pour ce qu'on a fait déjà? Est-ce que c'est par rapport à ce qu'on a fait ou là ce qu'on va faire?
Sur ce que l'on a fait, Yachir, sur ce qu'on a fait, c'est par rapport au cours que vous avez fait. Donc, comme je disais, 10 questions sur le cours que vous avez fait, et après, faire une autocorrection, juste après. Ça devait cher.
D'accord, Inch'Allah Ta'ala pour lundi, mercredi, Inch'Allah Ta'ala, on va faire ça. C'est-à-dire, je vais vous poser des questions. Et je vous demanderai de répondre, Inch'Allah. ta'ala. Naam. On fera ça, inshallah ta'ala, mercredi. Ensuite, autre chose, quelqu'un m'a dit, des gens me demandent par rapport à ce que j'ai dit une fois, que il y aurait une surprise dans 2 mois ou quelque chose comme ça par rapport aux questions-réponses. Je dis ça, c'est vrai. Ce n'est pas encore arrivé le quelque chose de temps, bi'idhnillah ta'ala. Naam. Il faut qu'il se passe quelque chose pour que cette surprise vienne. Donc il faudrait que vous patientez encore un peu, bi'idhnillah ta'ala. Pour la conférence téléphonique, quelle conférence, Habib? Tu parles de quelle conférence? De demain, à 19h. Vous savez mieux que moi. Moi j'oublie. Naam, 19h, donc c'est après Salat al-Maghrib, inshallah ta'ala. Naam, c'est une petite intervention dans une mosquée, c'est tout. Une petite intervention avec quelques questions-réponses. C'est quoi, par exemple, la salafia ou quelque chose comme ça, ensuite, avec questions-réponses, inshallah ta'ala. Inch'Allah, barakallahu fikum. On va se rencontrer donc, inch'Allah ta'ala, pour le cours, inch'Allah ta'ala, mercredi. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.